Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Dubéquetch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 19 mars de 18 à 21h, en différé jeudi 20 mars, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge Dubéquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. En demandant aux auditeurs de bien vouloir excuser ce léger voile que j'ai dans la voix, mais les frimas lyonnais font que je vais peut-être parler un peu du nez ce soir et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Une émission qui va être divisée en deux parties. Une première partie qui va être consacrée à l'histoire des relations entre la Russie et l'Europe. Nous sommes en plein dans l'actualité. L'histoire va nous permettre de rallier l'actualité la plus immédiate, d'aller voir où se situe la Russie par rapport à l'Europe. Et les événements qui se sont déroulés ces derniers jours dans les négociations qui ont précédé cette guerre en Irak nous ont bien mis au cœur du sujet, donc une première partie. Avec Dominique Vénère, qui va nous présenter la nouvelle revue d'histoire, qui traite précisément de ce sujet, le dossier central de la revue est la Russie et l'Europe. Et comme invité, nous avons Aymeric Chauprade. Aymeric Chauprade, que les auditeurs commencent à bien connaître. Aymeric Chauprade est un de nos brillants géopoliticiens. Aymeric Chauprade est directeur des études de géopolitique au CID. Le CID, c'est l'ancienne école de guerre, le collège de défense. Et Aymeric Chauprade est également éditeur. Et Aymeric Chauprade vient de publier la seconde édition d'un livre qui fait autorité en la matière. Un livre qui a pour titre « Géopolitique, constantes et changements dans l'histoire », publié aux éditions Ellipse, nouvelle édition 2003, nouvelle édition actualisée. Philippe Conrad nous rejoindra tout à l'heure pour la seconde partie de l'émission qui sera consacrée à l'Afrique. Donc nous inversons l'ordre habituel de nos rubriques et nous parlerons de l'Afrique en seconde partie. Et nous allons commencer par cette question de la Russie et de l'Europe. Cette question de la Russie et de l'Europe qui constitue le dossier central du numéro 5, déjà le numéro 5 de la nouvelle revue d'histoire que dirige Dominique Vénère. Un numéro qui est particulièrement étincelant. Étincelant quant à l'élargissement, à l'éventail, à la palette des sujets traités, et étincelant quant aux signatures. Vous avez véritablement des signatures prestigieuses qui collaborent à cette revue, Dominique, et c'est tout à fait important de le citer. Alors, une palette d'éléments très larges que vous traitez dans ce numéro 5, par exemple... la nouvelle affaire Jean Moulin, les développements actuels de l'affaire Jean Moulin, le scandale du Monde, le journal Le Monde, vous êtes là également en plein dans l'actualité, un article tout à fait important sur la nébuleuse trotskiste. Quand l'on a lu cet article d'Henri Le Sueur, l'on comprend tout de cette nébuleuse trotskiste avec les grandes familles. Un article qui est très clair, qui nous classifie bien les uns et les autres.
Oui, grande pénétration dans les médias, entre autres.
Dans les médias, entre autres, et dans les médias, dans la politique, dans tous les domaines de pouvoir. Un article tout à fait intéressant, un entretien tout à fait intéressant avec François-Xavier Dillemann sur la question de la découverte de l'Amérique par les Vikings. Je regrette simplement que François-Xavier Dillemann ne soit pas allé plus loin dans l'état actuel des connaissances et que nous ne soyons pas allés davantage dans l'approfondissement de ce sujet, car c'est un sujet très important et c'est remarquable, une synthèse remarquable qui est faite par Dillemann, qui est le spécialiste de la question. Vous auriez dû lui conseiller une page de plus.
Il aura l'occasion de revenir sur ce sujet.
Voilà, tout à fait. Il faut le développer. Il lui a manqué une page pour vraiment aller jusqu'au bout, mais c'est tout à fait remarquable. Mais
il ne faut pas épuiser toutes les munitions d'un seul coup.
C'est vrai. Et le cœur de la revue, donc le dossier, la Russie et l'Europe. Alors la Russie et l'Europe, avec des signatures tout à fait prestigieuses, un article du grand Vladimir Volkov, notre ami Vladimir Volkov, sur Saint-Pétersbourg, une fenêtre sur l'Europe, un entretien avec Henri Troyat sur Pierre le Grand.
Oui, magnifique.
Magnifique. Un magnifique entretien. Un magnifique
Le portrait. Le portrait de Pierre le Grand, pas Troyat. C'est absolument prodigieux.
Un souffle. Ouais. Un excellent entretien avec Alain Besançon sur le courant slavophile et le courant occidentaliste, tout à fait important. Un tout à fait intéressant article également de notre ami François-Georges Dreyfus, professeur François-Georges Dreyfus, sur le poids de l'asianité et de l'islam en Russie. Très important. Cette dimension est essentielle. François-Georges Dreyfus montre bien que 10% de la population russe, au moins, est une population qui est asiatique et musulmane. Et enfin, un excellent article de notre ami Émory Choprade, qui est présent ici, sur la géopolitique de la Russie en Asie centrale. Et nous allons l'interroger, bien sûr, sur ce point. Donc un numéro tout à fait important de la nouvelle revue d'histoire. Qui a trouvé sa place, Nouvelle Revue d'Histoire? Ça y est, on peut dire qu'elle s'est taillée sa place dans le domaine des revues historiques, n'est-ce pas, Dominique?
Oui, et c'est un domaine, en fait, plus élargi. Elle a sa place parmi les revues historiques, mais j'ai le sentiment qu'elle intéresse un public beaucoup plus large que celui des revues historiques. En raison même de la logique qui est celle de cette revue, puisque nous établissons un lien constant entre l'histoire, le présent et une méditation sur un avenir possible. Et nous fournissons des éléments de réflexion qui sont, je pense, intéressants et qui apportent, donc, qui comblent un vide en matière de réflexion d'ordre général, y compris de réflexion sur les idées.
Oui, ce qui est tout à fait important dans cette revue, c'est que vous partez souvent d'un événement d'actualité et vous le décortiquez dans la longue durée historique. Ce qui nous permet de ne pas marcher en aveugle ou en somnambule dans la perception des événements. Et vous avez eu l'idée tout à fait remarquable de consacrer un dossier à la Russie et à l'Europe. qui tombe totalement à pic. Totalement à pic parce que nous voyons bien en ce moment, avec les affaires irakiennes et avec les sirènes atlantistes ou les conditionnements atlantistes, nous voyons bien que nous revenons aux vieilles lignes de déterminisme ou lignes de force, aurait dit les marxistes, ou constantes historiques, aurait dit les maurassiens, qui ont animé l'Europe. Et nous voyons, par exemple, se reconstituer, d'une certaine manière, les alliances traditionnelles de la France, certaines alliances traditionnelles de la France, avec la Russie. Alors, justement, pour parler de cela, Dominique Vénère, je voulais vous poser une première question. Et une première question qui est un peu difficile peut-être, car c'est une question que je vais vous poser sur la longue durée historique. Est-il possible, sur la longue durée, c'est-à-dire sur les 6 siècles, 7 siècles d'existence véritablement indépendante de cette politique européenne, pouvez-vous essayer de mettre en évidence les moments de rupture et les moments de relation ayant existé entre la Russie et l'Europe? Y a-t-il eu, à travers l'histoire, véritablement des phases de relations entre la Russie et l'Europe, en dehors des quelques petites périodes que nous connaissons tous?
Oui, alors je vais tenter ce survol sur la très longue durée, c'est-à-dire depuis le début de l'histoire russe.
Donc le Xe siècle.
Ou même un petit peu avant, il faut dire un mot de ce qui précède, parce que l'histoire russe, elle est évidemment dépendante d'un certain peuple, de ses composantes, mais elle est dépendante aussi d'un territoire. Et quel territoire? Puisque le territoire de la Russie d'aujourd'hui, bien qu'il soit diminué fortement depuis l'effondrement de l'URSS en 1991, ce territoire reste le plus vaste du monde en superficie. Il ne l'a pas toujours été ainsi, bien entendu. La Russie, l'Empire russe, ce qui subsiste aujourd'hui de l'Empire russe, est le résultat d'une lente évolution. Et pendant des siècles nombreux, les siècles historiques, la Russie n'était pas aussi vaste, loin de là, qu'elle l'est aujourd'hui. Le point de départ commence évidemment avant même l'histoire, les traces écrites de l'histoire de la Russie, c'est-à-dire en effet le Xe siècle, ça commence avant, et ce que l'on sait de l'histoire la plus ancienne est lié au territoire et aux particularités de ce territoire. C'est ainsi que les Scythes qui sont parmi les premiers peuples identifiés, ayant laissé une trace forte sur le territoire russe, sur une partie du territoire russe d'aujourd'hui, essentiellement le bassin de la Volga. Les Scythes ont eu affaire au VIe siècle à une attaque, l'une des attaques nombreuses dont le vaste territoire russe fut l'objet à travers le temps, attaque des Perses sous le règne de Darius Ier. Qu'est-ce qu'ont fait les Scythes? Eh bien, ils ont fait ce que les Russes feront ultérieurement. C'est-à-dire que, bénéficiant de l'immensité de leur territoire, ils se sont progressivement repliés vers le nord, puisqu'ils étaient attaqués au sud, évidemment, en pratiquant la terre brûlée. Et de cette tactique a surgi tout à la fois leur victoire et la défaite de Darius et des Perses. C'est intéressant, puisque ce sera l'une des constantes de l'histoire russe. Lorsque celle-ci sera attaquée, elle trouvera parfois, pas toujours, nous verrons un exemple où malheureusement pour elle, elle n'a pas trouvé ce salut ou le salut dans l'espace.
Lorsque l'attaque venait de l'Est.
Alors, au-delà de cette période qui précède l'histoire véritable de la Russie commence un peu avant le Xe siècle par un lien curieux qui s'établit entre les populations autochtones qui sont présentes, les Slaves, qui sont présentes depuis les premiers siècles de notre ère, sur le vaste bassin de la Volga, contacte donc, relation progressivement intime, avec une population différente, petite population, petits conquérants, en fait, que sont ce que nous appellerons, nous, les Vikings, et ce qu'en Russie, on appelle les Varegs. Alors, les Varegs se comportent un petit peu comme ils se comportent ailleurs, à la même époque.
Ce
sont les Suédois. Ils se comportent comme ailleurs, c'est-à-dire que ce sont à la fois des navigateurs talentueux, disposant de ces grandes barques qu'en termes courants on appelle les drakkars, et qui leur permettent tout à la fois de se déplacer sur mer et de se déplacer sur les fleuves, et qui permettent des transbordements dans les espaces où les fleuves sont interrompus. Grâce à ces instruments, grâce à leur sens de l'aventure, leur goût à la fois du commerce et de la guerre, les Varegs vont pénétrer l'espace russe comme personne jusque-là, semble-t-il, ne l'avait pénétré. Et ils vont établir, ils arrivent évidemment par la Baltique, et ils vont établir, en suivant les fleuves, ils vont établir une relation, la première relation sans doute, entre la Baltique et le sud, c'est-à-dire la mer Noire. Et le sud, la mer Noire, cela signifie progressivement relation avec Byzance, ce qui aura évidemment un rôle essentiel ultérieurement, nous allons en reparler, dans l'histoire russe. De ce premier contact entre Vareg et Slave va naître une association. La légende dit que ce sont les Slaves qui auraient fait appel à quelques chefs de guerre Vareg pour assurer leur défense contre des envahisseurs possibles, bulgares au sens ancien du mot, khazars, etc. Toujours est-il que les Varegs, effectivement, vont jouer un rôle fondateur très important. Ce sont eux qui vont fonder les deux premières grandes principautés, celle de Novgorod et celle de Kiev. Toutes les deux vouées à un immense développement. Les deux fondateurs légendaires sont Rurik pour Novgorod, Oleg pour Kiev. Cela se situe au IXe siècle. L'un des descendants de Rurik, qui s'appelle Vladimir, qui est d'origine scandinave, va se convertir en 988 à l'orthodoxie. Conversion politique. Pourquoi l'orthodoxie ? Évidemment, en raison du lien, comme je le disais tout à l'heure, qui s'est progressivement noué avec Byzance. C'est un lien conflictuel, d'ailleurs, car ce n'est pas un lien toujours amical. Les conflits ne manquent pas avec Byzance, mais Byzance est évidemment la puissance rayonnante au sud, et ce rayonnement influence tellement les nouveaux maîtres de la future Russie qu'ils décident, par l'entremise de Vladimir, de se convertir à une religion qui est en fait une civilisation. Ils adoptent la civilisation, la religion qui est dominante dans l'ère géographique qui est la leur, et cette civilisation, cette religion va les marquer de façon définitive. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Quelques siècles passent, les relations par l'intermédiaire des Scandinaves existent dans cette époque-là, à la fois avec l'Europe du Nord et, bien sûr, avec Byzance, comme on vient de le dire. Mais les relations sont parfois un petit peu plus larges, puisque au début ou à la moitié du XIe siècle, une princesse de Kiev, Anne de Kiev, épousera un Capétien, le roi de France, Henri Ier. À l'époque de ces épousailles, c'est-à-dire en 1051, le niveau de civilisation de la principauté de Kiev peut certainement être comparé favorablement avec le niveau de développement et de civilisation qui est le nôtre, à nous, prince franc de l'Europe occidentale. Et on pouvait penser que ce développement civilisateur de la Russie allait se maintenir. Mais il sera brisé de façon foudroyante et désastreuse au XIIIe siècle par la conquête des Mongols, turco-mongols. Genghis Khan et ses successeurs qui vont établir leur domination sur la Russie, même si le terme n'est pas vraiment utilisé encore à l'époque, sur la Russie de l'époque, ou du moins sur une grande partie. Ils vont s'emparer de Kiev, ils vont s'emparer de Moscou qui a été créée entre-temps, mais ils ne vont pas poursuivre vers le nord, ce qui fait que dans le nord de la future Russie va se maintenir la principauté de Novgorod, qui reste libre de cette emprise. Néanmoins, elle est quelque peu coupée du monde. Cette conquête mongole va durer 2 siècles, à travers de multiples conflits et un effort de plus en plus net au XVe siècle pour se libérer de cette contrainte, de cette emprise.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.
Cette conquête de 2 siècles des Mongols va avoir des conséquences immenses pour l'avenir de la Russie. Elle va marquer tout à la fois les mœurs dans leur ensemble, elle va marquer les mœurs des populations, de la société, elle va marquer les mœurs politiques, c'est-à-dire que le principe particulier de l'autocratie russe va être fortement inspiré de ce que l'on peut appeler le despotisme oriental, c'est-à-dire que le prince tout-puissant, qu'on appellera ultérieurement le tsar, et de façon beaucoup plus lointaine l'empereur, le tsar donc, est non seulement tout-puissant, mais il est le seul à être véritablement, à avoir une individualité. C'est-à-dire qu'il est le propriétaire, par exemple, de toutes les terres. Il n'y a pas du tout, comme en Europe occidentale, dans notre propre histoire occidentale, il n'y a pas du tout le phénomène analogue à ce que sera la féodalité, avec une répartition des pouvoirs qui est à l'origine du sens extrêmement développé des libertés sont particulières au monde occidental. Cela n'existe pas. Les anciens nobles, c'est-à-dire les boyards, se voient dessaisis de toute autonomie, de toute propriété territoriale et de toute respectabilité même, puisque le knout peut leur être appliqué. Ils peuvent être soumis par décision du tsar à des peines infamantes que l'on n'imagine absolument pas dans la noblesse européenne. Pour montrer les choses, ce n'est qu'en 1765 que les peines corporelles sont abolies pour les nobles. On n'imagine évidemment pas ça dans notre monde occidental. Cela, c'est un effet, c'est une conséquence de la conquête mongole. L'autre conséquence, très succinctement et très rapidement, c'est l'influence de l'islam, car les Mongols conquérants sont musulmans. Ils le sont depuis à peu près le Xe siècle, et ils apportent avec eux leur religion. Alors, ils ne l'imposent pas, contrairement à ce qui peut se faire ailleurs. Mais les populations qui sont sous leur influence sont musulmanes. Et ces populations vont se maintenir, se multiplier, ce qui fait qu'aujourd'hui, leurs successeurs, leurs descendants sont toujours là. Et ils ne se sont pas fondus dans la masse russe. Ils ne se sont pas russifiés. Ils sont restés avec leurs particularités. Ce sont les Tatars, ce sont d'autres populations.
François-Georges Dreyfus explique très bien dans son article de la Nouvelle
Très clair. Histoire. Très clair. Aujourd'hui, bien si l'on en croit les déclarations récentes de Vladimir Poutine, qui explique en partie sa politique à l'égard des États-Unis sur l'affaire irakienne par ce fait, Il dit, nous avons 20 millions de musulmans en Russie. Et de cela, nous devons tenir compte. Nous en reparlons tout à l'heure parce que il y a un réveil islamiste en Russie qui est tout récent et qui est analogue au réveil de l'islam partout ailleurs. Mais restons dans l'histoire et poursuivons ce survol. C'est au XVIe siècle que les Russes vont se libérer d'une façon définitive de la puissance mongole. La date à retenir est celle de la libération de Kazan par Ivan IV. Ivan IV dit le terrible. Cela se passe en 1552. Cela dit, la totalité du territoire ne se trouve pas nettoyée, si j'ose dire. Au contraire, puisque vont se maintenir sur place des populations mongoles qu'on appelle les Tatars, turco-mongols qu'on appelle les Tatars entre autres, et qui sont des populations musulmanes. Elles existent toujours. Simultanément, se développe à partir du XVe siècle un phénomène un peu nouveau qui est celui du messianisme orthodoxe, qui va avoir un grand rôle ultérieurement. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Pourquoi ? Eh bien parce que en 1453, Byzance est conquise, Constantinople est conquis par les Turcs. Il ne reste plus rien de l'Empire byzantin. Il reste néanmoins la survivance religieuse à travers la Russie, puisque la Russie devient progressivement une grande puissance orthodoxe. Et c'est sous le règne d'Ivan III, au XVe siècle, qu'un moine de Pskov va définir ce qui sera le fondement du messianisme russe. L'idée ou le concept de la troisième Rome. Il dit en substance, il y a eu deux Roms. Alors, il pense évidemment à la Rome païenne et ensuite la deuxième Rome, Constantinople. Il y a maintenant, dit-il, une troisième Rome, mais il n'y en aura pas de quatrième. C'est-à-dire que la troisième Rome, Moscou, revendique l'héritage universel, de conquête universelle, qui pouvait être celui de la première Rome et de la deuxième, la Rome chrétienne, mais désormais incarnée par cette troisième Rome, Moscou. Et cela marquera profondément l'esprit, nous en parlerons tout à l'heure, cela marquera profondément la vision, l'interprétation des choses jusqu'à aujourd'hui. Autre étape, alors, qui est fondamentale, parce que, on l'a compris, depuis la conquête mongole au XIIIe siècle, la Russie se trouve totalement coupée de l'Europe. Elle se développe, si l'on peut dire, ou elle subsiste de son côté, mais dans un isolat absolu. Et à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, pour simplifier les choses, grande, immense révolution due à un homme tout à fait extraordinaire, un génie, Pierre le Grand, un génie qui n'est pas forcément très agréable de côtoyer, parce que le génie en question est d'une férocité, d'une brutalité peu commune, mais cette férocité et cette brutalité au service...
Il va canaliser le bouillonnement.
Oui, au service d'un esprit politique supérieur, d'une vision politique supérieure, mais c'est cette brutalité terrible qui va lui permettre, sans aucun doute, dans ce pays particulier, d'imposer à coup de schlag
et de
knut
et
à quelques et coups de et avec de quelques coups avec quelques coups de mousquet aussi
oui.
Ça va lui permettre d'imposer l'ouverture de la Russie vers l'Europe. Et c'est une ouverture qui est vraiment imposée par la force, parce que rien ne prédispose à cette époque la Russie, elle aurait pu continuer comme ça à vivre de son côté.
C'est la fondation de Saint-Pétersbourg.
Alors, c'est la fondation de Saint-Pétersbourg.
Qui résume parfaitement cette politique.
Parfaitement. Nous fêtons cette année le tricentenaire de la fondation de Saint-Pétersbourg. La date officielle qui est retenue est en 1703. En réalité, la fondation réelle s'est faite un petit peu plus tard et Saint-Pétersbourg devient capitale par décision, évidemment, de Pierre le Grand en 1712. Mais cette fondation de Saint-Pétersbourg est tout à fait représentative de l'esprit de Pierre le Grand. L'article que nous publions de Vladimir Volkov est à ce sujet tout à fait éclairant, parce que avec son talent, il montre bien à quel point cet homme d'exception a relevé tous les défis. Et Saint-Pétersbourg est en quelque sorte le symbole des défis multiples relevés par Pierre le Grand, qui veut sortir la Russie de sa gangue asiatique, en quelque sorte, et qui veut en faire une puissance européenne. Alors, il le fait, je disais qu'il était féroce, et oui, non seulement il a fait couler le sang, mais il a prêté la main très souvent. Il l'a fait, par exemple, lors de la fameuse révolte des anciennes troupes, qu'on appelait les Strelitz, oui, qui se rebellent contre lui.
Il a participé aux tortures.
Oui, il a participé. Il y a participé, il y trouvait apparemment une certaine volupté.
Les descriptions qui sont faites dans la Nouvelle Revue d'Histoire sont extraordinaires.
Ils sont vraiment extraordinaires.
Mais pataugeant dans le sang, dans la sanie, les excréments, Pierre le Grand extirpe la rébellion. Enfin, c'est dantesque comme description.
Tout à fait, tout à fait. Mais cet homme qui, avec cette violence, va transformer la Russie, va l'ouvrir à l'Europe, le fait aussi parce que, bon, il est porté par un grand esprit politique, mais il a une particularité que je trouve très frappante. Lui, qui a l'orgueil justifié de ce qu'il est en même temps un homme modeste. C'est ainsi que, lorsque tout jeune, il prend l'initiative de ce qu'il appellera, ou de ce que l'on appellera, la grande ambassade. C'est-à-dire que pendant un an et demi, il va quitter la Russie, accompagné d'un certain nombre de nobles et de futurs techniciens, et ensemble, ils vont faire le tour des capitales européennes. Des capitales et aussi des centres actifs, afin de se mettre à l'école de l'Europe.
Mais pas la France.
Pas la France, mais parce que la France est à l'époque
alliée.
L'ennemi,
et oui.
L'ennemi potentiel de la Russie, puisqu'elle est alliée du trône
turc, ottoman,
et de Pologne, qui est à l'époque en opposition avec la Russie, qui ensuite se retournera. Bon, bref, dans cette époque, dans cette première période, la France n'est pas du tout l'allié de la Russie. Donc il fait le tour en dehors de la France. Et il le fait, en principe, incognito. Alors, l'incognito ne se maintiendra pas vraiment, mais il est déguisé comme un simple charpentier. Parmi les autres charpentiers qui viennent s'instruire, il refuse, dans un premier temps, d'être reçu avec les égards dus à son rang. Il se dissimule, donc ça c'est vraiment une particularité de son caractère et qui laisse à réfléchir. Et il a imposé cet incognito autour de lui, dans sa suite, sous menace de mort. Ça fait partie de ses méthodes. Et alors, ce qui montre bien cette étonnante particularité chez lui, cette modestie quand il le veut, pour accompagner les courriers qu'il expédie en Russie, il a un sceau personnel qu'il s'est fait confectionner spécialement pour cette ambassade. Et sur ce sceau, il a inscrit la devise suivante. Mon rang est celui d'un élève et j'ai besoin de maître. Que lui accepte de se placer dans la position de l'élève et de demander des maîtres, ça est révélateur. Помилуй нас, Боже, повелицей милости Твоей.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Le libre journal de Serge de Becquet, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Nous parlions des relations de la Russie et de l'Europe avec Dominique Vénère à propos du dossier de la nouvelle revue d'histoire. Victoria, nous avons deux, trois questions d'auditeurs.
On nous signale simplement, parce que vous avez parlé de M. Volkov, on nous signale la BD Saint-Vladimir, texte donc de Volkov et dessin de Tang, paru à la maison d'édition Le Lombard.
Très bien. Nous en étions restés, Dominique, au grand règne du grand Pierre le Grand. Que se passe-t-il à l'issue de ce règne ?
Alors, ce règne a plusieurs conséquences immédiates. Lorsque Pierre le Grand monte sur le trône, il est tout à fait conscient, comme je l'ai dit, de l'arriération de la Russie. Mais il va en être conscient d'une façon très très directe, parce que la Russie est soumise à des entreprises de conquête militaire qui viennent de la grande puissance du Nord, la grande puissance de la Baltique, qui est la Suède. Et la Suède a, à l'époque de Pierre le Grand, un souverain qui va se révéler un homme de guerre d'une qualité exceptionnelle, qui est Charles XII. Charles XII va entreprendre, va intervenir sur la Baltique. Son ambition est d'étendre le pouvoir de la Suède sur la totalité de la Baltique, et il va rencontrer de la sorte l'opposition de la Russie et de Pierre le Grand. La première rencontre se passe en 1700 à Narva, et cette première rencontre tourne au désastre pour les Russes. Et quel désastre ! Les Russes alignent plus de 40 000 hommes. En face, les Suédois de Charles XII n'en ont que 8 000, et ce sont les 40 000 de Pierre le Grand qui prennent la raclée. Ils se retirent, etc. Pierre le Grand est dans un état de dépression et de colère avancée, et c'est ce qui l'incite et c'est ce qui le pousse à accélérer ses réformes et la modernisation de l'ensemble de la Russie et évidemment de l'armée. Il se donne une armée moderne avec un armement moderne, etc. Et 9 ans plus tard, à Poltava, en Ukraine, la Russie et Pierre le Grand prennent leur revanche sur Charles XII qui cette fois est écrasé. Poltava, ça a un retentissement immense en Europe parce que pour la première fois, la Russie fait parler d'elle en Europe, et elle fait parler d'elle grâce à une victoire militaire contre celui qui est considéré comme le plus grand capitaine européen de l'époque, Charles XII. Donc Poltava est capitale, c'est vraiment l'entrée de la Russie dans le concert européen. Je pense que on peut en rester là pour ce survol, puisque nous reviendrons tout à l'heure sur cette thématique des relations entre la Russie et l'Europe.
Et nous les reprendrons à partir de cette période pour les inscrire dans la durée contemporaine, dans l'histoire moderne et contemporaine. Alors je me tourne maintenant vers Émeric Choprade, qui est géopoliticien. Émeric Choprade, qui vient de donner un article tout à fait passionnant à ce numéro 5 de la Nouvelle Revue d'Histoire, un article qui a pour titre « Géopolitique de la Russie en Asie centrale ». Je vous pose la question suivante, Émeric Choprade. Il est évident que la Russie est partagée entre l'Europe et l'Asie. Et cette Russie, qui est une puissance européenne, est également une puissance asiatique. Que peut-on dire des enjeux de l'Asie centrale dans l'histoire moderne de la Russie, depuis la période post-Pierre le Grand jusqu'à aujourd'hui ?
Je crois que, comme toujours, il faut regarder l'histoire sur le temps long. Et lorsqu'on regarde l'histoire sur le temps long et qu'on se penche sur l'intérêt de la Russie en Asie centrale, eh bien, on voit que ça fait très longtemps que ça dure et ça fait très longtemps que la Russie s'intéresse à l'Asie centrale, s'y projette et essaie de s'y installer. Et je me suis interrogé, au fond, sur la raison. sur les raisons pour lesquelles la nation russe, de civilisation tout à fait différente de celle des peuples qu'on trouve en Asie centrale, avait fait cet effort pendant des siècles pour se maintenir en Asie centrale. Comment la Russie s'était-elle employée? Quelle avait été sa stratégie pour se fixer dans cette partie du monde? Alors je crois qu'il faut d'abord situer ces constantes de l'histoire russe par rapport à l'Asie centrale. La première donnée, c'est que la Russie est enclavée. C'est une puissance continentale, elle est à l'intérieur des terres et elle a toujours cherché des voies d'accès aux mers, ce qu'on appelle la fameuse poussée vers les mers chaudes, dont on parlera beaucoup au XIXe siècle avec le grand jeu, expression forgée par Rudyard Kipling. Donc désenclavement poussé vers les mers chaudes qui l'a amené forcément à traverser les territoires, les terres médianes d'Asie centrale pour gagner l'océan Pacifique, l'océan Indien. De la même façon, elle tentait de pousser à travers le Caucase et les Balkans. Deuxième intérêt marqué, c'est la question des ressources. La Russie a toujours trouvé en Asie centrale des ressources additives aux siennes. Alors, ça a pu être à une époque l'or, et puis c'est aujourd'hui la question du pétrole dont on parle beaucoup en Asie centrale. Donc le désenclavement de la géographie physique, la question des ressources. Alors, comment la Russie s'y est-elle prise? Eh bien, elle s'est trouvée confrontée à un monde autre, un monde différent du peuple russe, évidemment. Elle s'est trouvée face à des races différentes, face à des Turcs, à des Iraniens et à une religion différente, à l'islam. Et là, il y a des constantes. Il y a des constantes, là encore, à la fois valables sous l'Empire et valables sous le communisme et sous Staline. Les constantes, c'est que la Russie a cherché en permanence à casser deux logiques unitaires qui étaient contradictoires avec la possibilité de son implantation. Ces deux logiques unitaires qui ont traversé l'histoire en Asie centrale sont d'une part le panturquisme, c'est-à-dire la volonté que tous les Turcs se rassemblent, s'unifient à travers les différentes républiques turcophones qui existent. Et la deuxième logique, c'est le panislamisme, tout simplement l'islam ou la logique unitaire de l'islam qui contredisait la possibilité de l'implantation russe dans la région. Et au fond, les Russes ont dû toujours, sous Catherine II comme sous Staline, s'employer de manière habile à avoir une politique face aux Turcs et une politique face à l'islam. Et c'est ça qui est fascinant dans l'histoire russe, c'est de voir de quelle manière les Russes ont eu une politique coloniale. On parle souvent de colonisation ou de politique coloniale pour les Anglais, pour les Français outre-mer, en Afrique ou ailleurs, mais on parle moins de ce qui est une véritable politique coloniale de la nation russe dans des terres qui lui sont ethniquement étrangères, civilisationnellement étrangères. Alors, la continuité, donc, ça a été de casser ces deux logiques unitaires. Parce que il faut bien comprendre qu'en Asie centrale se sont superposées à travers les siècles des races différentes. La première grande culture d'Asie centrale est une culture persanophone, iranienne. Ce sont les Tadjiks qu'on retrouve aujourd'hui. Et puis vont s'implanter les Turcs, la force nomade turque qui va progressivement inonder l'ensemble des terres d'Asie centrale et s'y fixer. Les Russes ont dû morceler cette logique turque. Alors, on va pas rentrer peut-être dans le détail des républiques turques, mais je voudrais faire comprendre à nos auditeurs cette idée qui a été employée par Staline et qui est l'idée de la vieille idée de diviser pour régner. Staline a construit des républiques turcophones. Comment a-t-il fait? Eh bien, il y avait différentes ethnies turcophones. Il y avait des Ouzbeks, il y avait des Kazakhs, il y avait des Turkmènes, des Kirghizes. Et puis, il y avait ceux qui étaient iranophones, les Tadjiks. Le vieux substrat indo-européen de l'Asie centrale, recouvert, je l'ai dit, par les Turcs. Alors comment a-t-il fait ? Il a surtout pas créé des républiques homogènes contenant un Ouzbékistan contenant uniquement des Ouzbeks, un Kazakhstan contenant uniquement des Kazakhs. Pas du tout. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit des frontières et il a mêlé les différentes ethnies. Ce qui fait que, un peu comme vous le démontrez parfaitement pour l'Afrique, Bernard Lugan, cette non-adéquation de la carte des États et de la carte des ethnies. Donc on s'est retrouvé avec des républiques composites contenant différentes ethnies. Et à l'intérieur des ethnies, le communisme a cassé, a séparé les élites de la population. L'exemple frappant, c'est la construction de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Les élites tadjiques se trouvent aujourd'hui, qui se trouvaient en Ouzbékistan dans les villes de Samarkand, se trouve donc maintenant en Ouzbékistan, tandis que l'essentiel des Tadjiks sont au Tadjikistan. Bon, autrement dit, les Tadjiks ruraux, montagnards, peu développés, se trouvent finalement en rupture par rapport à leurs élites culturelles, marchandes, qui sont aujourd'hui en Ouzbékistan. Principe de division, donc, pour régner avec un arbitrage russe, le russe, l'ethnie russe dominant ces ensembles composites qui a pas mal marché. Et puis on s'est trouvé évidemment à l'effondrement de l'URSS, 1990, 5 nouveaux États sont nés en Asie centrale, ces fameuses républiques, elles ont conservé les mêmes frontières. Les ethnies dominantes se sont trouvées au pouvoir et on est retombé sur, je fais ce parallèle exactement avec ce que vous décrivez parfaitement, cette mécanique ethnique qu'on retrouve en Afrique avec un appareil étatique aux mains de certaines ethnies et face à ces ethnies d'autres qui se considèrent comme brimées. Donc l'équilibre géopolitique de ces républiques d'Asie centrale n'est pas atteint du fait de la construction politique. La Russie cherche aujourd'hui à se maintenir en Asie centrale, bien que ces 5 nouvelles républiques aient pris leur indépendance. La Russie cherche à se maintenir, pas uniquement pour des questions de ressources, parce qu'il y a du pétrole et du gaz en mer Caspienne, c'est important, mais parce que la puissance régionale de la Russie et sa capacité à être autre chose qu'une puissance continentale enclavée réside en grande partie dans son maintien d'influence en Asie centrale. Quitter l'Asie centrale, c'est s'éloigner encore des mers chaudes et c'est laisser la Chine aussi y progresser, laisser l'Inde pousser en Asie centrale et laisser évidemment le monde anglo-saxon
et le monde turc,
qui peut s'appuyer sur les turcophones et qui d'ailleurs est allié aux anglo-saxons, l'Angleterre au 19e siècle et aujourd'hui les États-Unis.
D'où l'assistance américaine à nous imposer l'entrée de la Turquie en Europe. Car si la Turquie entrait en Europe, ce seraient tous les turcophones jusqu'à la Mongolie qui pourraient rentrer en Europe. Car la loi turque permet à tout turcophone de rentrer en Turquie. Donc si la Turquie était européenne,
absolument,
les vraies frontières de l'Europe seraient Oulan-Bator.
Exactement. Alors la Turquie présente effectivement pour les Américains deux avantages majeurs. Le premier vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest, c'est qu'elle renforcerait le poids des États-Unis sur l'édifice européen à l'Ouest. Et vis-à-vis de la Russie, la Turquie étant depuis des siècles anti-russe, c'est un moyen, Turquie plus République turcophone, c'est un moyen de refouler l'influence russe, de la contenir et au contraire de consolider les intérêts américains dans la région. L'Asie centrale s'est trouvée, depuis son déclin qui date du XVIe siècle, là il faudrait dire un mot peut-être sur cette Asie centrale qui avant le XVIe siècle, avant les grandes découvertes et avant l'ouverture de grandes routes maritimes, était riche, était un carrefour du commerce Est-Ouest entre les Européens et l'Asie, et elle se trouvant en situation géographique médiane, eh bien elle se trouvait dans une situation où elle voyait passer les caravanes et elle en tirait une grande richesse. Et puis l'ouverture des grandes routes maritimes a projeté les Européens dans l'ensemble du monde, les a fait contourner le monde musulman. Ça a été une révolution géopolitique formidable qui a été le début du déclin du monde islamique qui vivait sur une économie rentière de transit, de taxation du commerce international qui passait par la zone médiane, le Moyen-Orient au fond.
Rôle d'intermédiaire.
Ça s'est effondré à partir du XVIe siècle progressivement.
Pas de production uniquement.
Pas de production, pas d'industrie, des taxes. du bakchich, au fond. L'économie de transit, l'économie de bakchich, qui prélevait sur ces grandes routes, ces fameuses routes de la soie, routes terrestres, hein, qui traversaient l'ensemble du monde musulman, à la fois l'Asie centrale et beaucoup plus également du côté du Proche-Orient.
Et qui aboutissait en mer Noire, en Terre Sainte et en Palestine.
Exactement. Alors tout ça s'effondre à partir du XVIe siècle, et c'est à partir de ce moment-là que les nations européennes se projetant dans l'ensemble du monde, bien la Russie fait la même chose. Nation alors européenne, eurasiatique, c'est un débat, mais en tout cas elle commence elle aussi à se projeter, à pousser vers le sud, et là elle traverse
vers le sud et vers l'est.
Et vers l'est de tous les côtés d'ailleurs. Elle traverse l'Asie centrale, elle va s'y implanter. Il y aura un véritable processus colonial, ethniquement parlant, une colonisation russe qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, au Kazakhstan, on a près de 30% de la population qui est russe et qui est fixée dans le nord du Kazakhstan. Le Kazakhstan peut absolument pas se priver de cette ce levier économique que sont les Russes, qu'on appelle il y a le phénomène des pieds noirs également, qui par rapport à la décolonisation, mais la Russie maintient son emprise. Alors, c'est tout à fait l'Asie centrale est tout à fait importante dans la géopolitique russe, et même si
aujourd'hui, que représente l'Asie centrale dans cette géopolitique russe?
Alors, que représente l'Asie centrale dans cette géopolitique russe? Le premier point, c'est qu'elle est un objectif stratégique. Par sa situation géographique, elle reste un objectif stratégique pour les Russes, du point de vue du monde turc, du point de vue du monde chinois et du point de vue du monde anglo-saxon. Donc c'est un objectif stratégique.
Saluons Philippe Corrad qui entre dans le studio.
C'est un objectif également économique, car l'essentiel des car les républiques turcophones achètent des produits aux Russes, hein, et elles sont très dépendantes d'ailleurs de l'économie d'exportation russe, et puis qu'il y a des ressources évidemment pétrolières et gazières. Donc la mer Caspienne représente à peu près 2,5% des réserves prouvées de pétrole dans le monde. Ça peut paraître peu, mais c'est tout de même une manne assez importante, et se déroule autour de cette mer Caspienne une compétition, une rivalité d'intérêts entre les Russes et les Américains essentiellement, qui fait que la Russie a besoin de maintenir son influence dans ces républiques.
Et quel est le rôle politique de Poutine dans ce contexte?
Eh bien, Poutine est dans la continuité de la politique russe. Il maintient, vous savez qu'aujourd'hui, qui sont les gardes frontières qui assurent la sécurité des républiques turcophones, des ex-républiques musulmanes d'Union soviétique, eh bien, c'est l'armée russe. Donc, certes, ce sont des républiques souveraines, mais elles sont leur sécurité est assurée par les troupes russes. D'autre part, si on prend l'exemple du Kazakhstan, eh bien, il y a une dimension spatiale nécessaire aux Russes. Les Russes ont besoin de leur base spatiale qui se trouve au Kazakhstan, et ils ont besoin de garder la main sur ce formidable espace territorial.
Ces éléments géopolitiques centra-asiatiques expliquent-ils, selon vous, l'attitude de la Russie est dans l'actuelle crise irakienne?
Alors, je crois qu'il faut s'interroger sur l'ensemble de la géopolitique russe et sa relation avec les États-Unis aujourd'hui. Que peut-on dire de cela? La Russie n'est plus l'objectif principal à réduire pour les États-Unis. Dans sa compétition pour rester le numéro un, l'objectif principal est devenu la Chine pour les États-Unis. Ça, c'est le premier point.
Et l'objectif à 10 ans.
L'objectif à 10 ans, 10, 15 ans, compte tenu de l'importance démographique,
même si
de la croissance asiatique.
Donc, même si la Chine n'a pas de pétrole.
Mais justement, même si la Chine n'a pas de pétrole, mais comme elle a un formidable potentiel de développement économique, elle représente sur 15-20 ans un rival économique en Asie-Pacifique dangereux, enfin inquiétant. Pas dangereux militairement, mais inquiétant du point de vue de la compétition économique pour le rang des États-Unis. Donc depuis la fin de la guerre froide, qui a été la compétition centrale entre les États-Unis et la Russie soviétique, depuis la fin de la guerre froide, on a l'impression que la cible principale des États-Unis est la Chine. Et c'est dans cette rivalité que la Russie trouve tout son rôle. Les Américains ont besoin de se rapprocher de la Russie. Les Russes le savent. Et ils savent également quels atouts ils ont, quels atouts ils peuvent mettre en avant face aux Américains. Ces atouts sont essentiellement énergétiques. Russie, c'est 4,6% des réserves prouvées de pétrole, donc elle vient juste après le Golfe, les pays du Golfe qui concentrent les deux tiers des réserves pétrolières mondiales, et puis il y a le Venezuela, ensuite il y a la Russie. Donc c'est un potentiel pétrolier important. C'est un pays qui n'appartient pas à l'OPEP, c'est important, il n'appartient pas à ce cartel capable de fixer, de réguler les prix, et pour les États-Unis c'est intéressant. Et puis c'est un poids énorme en gaz, plus encore, 30% du gaz mondial se trouve en Russie. Bon, c'est un poids important en charbon, ce qui fait que la Russie peut être considérée demain par les États-Unis comme par d'autres pays d'ailleurs comme un géant énergétique, un réservoir pour le monde occidental ou pour la Chine. Et c'est dans cette bascule réservoir potentiel pour le monde occidental, l'Europe très dépendante du pétrole ou la Chine également très dépendante du pétrole, que la Russie va jouer son jeu. Elle va
marchander,
exactement, monnayer, parce qu'elle sait qu'elle est un atout et que les Américains devront payer chèrement le basculement de la Russie du côté occidental plutôt que du côté chinois. La Russie souhaite basculer plutôt du côté occidental parce que si elle est un réservoir énergétique, elle est faiblement développée économiquement. Son produit intérieur brut n'est qu'à la hauteur de 5% du produit intérieur brut américain. Donc elle a besoin de se développer, elle a besoin d'investissement, elle a besoin d'argent qui vient de l'Ouest. Elle sait qu'elle a des atouts, outre l'atout énergétique, elle reste une puissance stratégique. Elle a un nombre de têtes nucléaires de l'ordre du millier qui la met plutôt à l'abri du bouclier antimissile américain. Bouclier antimissile américain est un concept qui va dévaluer les puissances nucléaires qui ont peu de têtes. Donc qui sont difficilement dans une position de percer ce bouclier. Mais la Russie, son nombre de têtes étant très important, peut percer le bouclier. Elle se sent moins concernée que la Chine par le bouclier antimissile. Donc potentiel stratégique fort, potentiel énergétique, et évidemment un atout géopolitique pour les États-Unis face à la Chine. C'est sur ces trois dimensions que, à mon sens, la Russie va jouer son rôle. Mais toute la difficulté pour la Russie sera de rester sur une ligne d'équilibre, une bascule favorable aux États-Unis, mais pas de vassalisation. Parce que si vassalisation il y a, alors évidemment elle ne pourra pas se développer et rester ce qu'elle souhaite rester, c'est-à-dire une grande puissance.
Mais nous revenons là alors au dilemme. La Russie bascule du côté est, du côté ouest, et si elle bascule du côté ouest, elle bascule vers l'Europe de l'ouest ou vers l'Europe atlantique. Nous sommes là dans ce grand problème, dans cette grande constante que nous allons reprendre après cette petite pause musicale. Oui, Yannick Choprad, nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Vous nous disiez que la géopolitique à long terme de la Russie va être conditionnée par une volonté de rapprochement avec les États-Unis. N'est-ce pas contradictoire avec la politique actuellement suivie par Poutine dans la crise irakienne?
L'intérêt commun de la Russie avec les États-Unis est double. C'est la question de l'islam et la question de la Chine. L'islam et la Chine sont deux menaces pour le monde russe. La Chine d'abord, Je rappellerai que la Russie, 148 millions d'habitants, une densité de 8,7 habitants kilomètre carré. La Chine, 1,4, bientôt 1,4 milliard d'habitants et une densité 10 fois supérieure à la densité russe. Il y a une poussée démographique chinoise qui menace l'existence, notamment à l'est, de la Russie. Donc la Russie est inquiète face au potentiel démographique, au développement économique de la Chine, à la croissance de la Chine qu'elle ne connaît pas elle-même. C'est ce qui lui fait prêter attention en particulier au rôle des États-Unis et à la volonté des États-Unis de contenir l'émergence du géant chinois. Ça, c'est le premier point. Par rapport à l'islam, il y a l'inquiétude que soulignait tout à l'heure Dominique Venner. Autant de millions de musulmans à l'intérieur de la géopolitique russe, un éveil de la conscience islamique à l'échelle mondiale, ou en tout cas un éveil, c'est plutôt un renforcement puisqu'elle a toujours existé. Tout cela inquiète évidemment la Russie. Mais c'est là où nous sommes, ne raisonnons pas par bloc, il s'agit d'une nation qui a traversé des siècles et qui n'a évidemment pas pour vocation de devenir un vassal, un supplétif des États-Unis. Elle joue une stratégie qui reste et qui garde, qui conserve l'objectif de rester une nation indépendante.
Une grande nation indépendante.
Une grande nation indépendante. Alors pourquoi elle prend cette position par rapport à l'Irak ? Parce que la question de l'Irak, et plus largement la question du Moyen-Orient, c'est la question du pétrole. Si la Russie laisse les Américains progresser dans leur stratégie de captation de l'essentiel du pétrole mondial, sachant que le Moyen-Orient, au total, c'est 2/3 des réserves mondiales de pétrole. Si demain, les États-Unis ajoutent au contrôle stratégique actuel 10% du pétrole, c'est l'Irak, et puis encore à peu près 10% l'Iran, 20%, eh bien ça veut dire que les États-Unis auront d'autant moins d'intérêt, justement, au pétrole et aux réservoirs énergétiques que représente la Russie. Autrement dit, plus l'Amérique augmente son assise et son contrôle physique des ressources pétrolières au Moyen-Orient ou en Afrique, on en parle souvent ensemble dans le golfe de Guinée, moins l'atout que représente l'énergie pour la Russie est important aux yeux des États-Unis. Donc je crois que la Russie va jouer un jeu assez trouble, au fond assez ambigu, consistant d'une part à travailler avec les États-Unis sur la question de l'islam et de l'islamisme transnational, à jouer un jeu plutôt favorable par rapport à la Chine. En revanche, je pense que la position russe en Iran, qui est forte, sera fermement défendue. De la même façon qu'aujourd'hui, les Russes essaient de défendre leur position importante dans le pétrole, mais également politiquement en Irak, parce qu'ils craignent cette avancée progressive des États-Unis dans l'ensemble du Moyen-Orient. Ils ont déjà dû partager avec les Américains l'Asie centrale et l'Afghanistan. Le gouvernement que nous avons aujourd'hui en Afghanistan est un gouvernement de partage d'influence entre Américains et Russes, exactement comme au XIXe siècle, il y a eu un partage d'influence entre Anglais et Russes. Enfin, je crois qu'il faut se dire que sur la question de l'Europe, je suis pas certain que la Russie souhaite une Europe puissance. Je crois que la Russie raisonne dans un cadre de nation et qu'elle regarde aussi avec une certaine inquiétude l'idée d'une Europe puissance à côté de la Russie. Europe puissance, imaginez une Europe puissance politique qui ne comprenne pas la Russie. Ça signifierait que cette Europe puissance de forte démographie, d'économie importante et indépendante des États-Unis, juste à côté de la Russie, eh bien ferait de la Russie finalement un nain politique et économique. Je pense, au risque de surprendre, je pense que la Russie a le même intérêt que les États-Unis à ne pas voir émerger une Europe puissance.
Ce qui fait que dans la crise actuelle, la Russie, selon vous, n'est qu'un allié de circonstance.
Oui. Parce que sa première priorité n'est pas de créer un axe, comme certains le pensent peut-être de manière romantique, et par rapport à nos visions, Paris, Berlin, Moscou, axe continental face aux puissances de la mer, etc. Mais je crois pas que ce soit ça son calcul. Son calcul,
il est nationaliste.
Il est de dire le Moyen-Orient, c'est le pétrole. Il y a une stratégie américaine de captation de l'essentiel du pétrole mondial. Nous allons perdre le seul atout véritable qui est le nôtre. C'est pas notre économie, c'est pas notre technologie, c'est pas notre développement démographique qui est très faible, puisque la Russie va perdre plus d'un million d'habitants par an bientôt. C'est le réservoir énergétique.
Dominique Venner.
Oui, je rebondis sur ce que vous disiez, Émeric Choprade. La Russie n'a certainement pas intérêt à voir se développer une grande Europe. Mais ce risque est quasiment exclu, puisque l'Europe n'est pas en voie de constituer une grande puissance politique unie. Inversement, il peut exister en Europe certains môles, comme ceux que l'on voit apparaître de façon occasionnelle. Ne nous leurrons pas sur l'ampleur du phénomène de la résistance relative aux États-Unis que l'on observe aujourd'hui. Mais il est intéressant de voir que la Russie a soutenu ces velléités franco-allemandes de relative indépendance par rapport aux États-Unis, parce que ça ne correspond pas à l'émergence d'une puissance européenne, et cela correspond simplement à une manifestation de relative autonomie par rapport aux États-Unis, mais en dehors et à l'encontre même d'une perspective de puissance européenne.
Oui, absolument, mais je suis très frappé de voir que la position russe depuis quelques années est par exemple de plus en plus favorable à l'OTAN. Mais l'OTAN conçue comme une grande alliance de souveraineté, une grande alliance transatlantique de pays souverains, un cadre transatlantique qui, au fond, ne gêne pas véritablement, ne tuerait pas la spécificité russe. Il y a un calcul plus fort, il y a un investissement plus fort du côté de l'OTAN que du côté de la défense européenne ou de l'Europe puissance. Vous avez raison de souligner que ils n'ont pas à craindre une Europe puissance indépendante, puisque on le voit bien aujourd'hui, faisons des mathématiques, la majorité des nations d'Europe, 18 sur 25 dans l'Europe élargie, souhaitent le maintien d'un lien transatlantique. Donc entre les deux projets géopolitiques, créer un bloc transatlantique, comme disait Baker de Vancouver à Vladivostok, ou l'Europe puissance que souhaite la France dans son projet européiste, il faut bien constater que la majorité des pays européens aujourd'hui considèrent la construction européenne comme une composante interne du grand bloc transatlantique commandé par les États-Unis, ce qui fait que les Russes ont peu à craindre cela. Et je crois qu'ils se voient et ils acceptent de plus en plus l'idée de rentrer dans ce bloc transatlantique, parce qu'ils savent pertinemment que ils pourront dans ce bloc très lâche, très vaste, au fond, jouer leur propre jeu.
Mais ils sont intéressés aussi à l'existence d'un monde multipolaire qui ne soit pas un monde qui ne soit pas entièrement dominé, ce que vous disiez, par les États-Unis. C'est sans doute la raison pour laquelle ils soutiennent, comme dans la crise irakienne, les initiatives françaises ou franco-allemandes qui participent à l'émergence de multiples pôles.
C'est une logique nationale, multicarte. Comme toute nation, ils ont plusieurs cartes dans leur jeu. Ils ne raisonnent pas, à mon sens, en termes de logique de bloc, ce qui est devenu très très fort en France du fait justement de l'obsession européenne, au sens de la construction européenne, pas la nôtre.
Et Émeric Choprade, merci. Je crois que vous devez
nous quitter. Non, pas au sens de la tradition.
Voilà.
Je crois que vous devez nous quitter. Vous avez un rendez-vous qui vous appelle. Merci. Je rappelle à nos auditeurs que vous venez de publier une nouvelle édition de Géopolitique constante et changement dans l'histoire aux éditions Ellipse. Et nous vous remercions de cette brillante intervention. À bientôt, Émeric Choprade.
Merci.
Dominique Venner, je me tourne à nouveau vers vous. Vous en étiez resté tout à l'heure au règne de Pierre. Et à l'issue de ce règne, on voit véritablement la Russie se tenter de se tourner vers l'Europe. tenter de se tourner vers l'Ouest. Et n'y a-t-il pas, dans les périodes qui vont suivre, un mouvement contraire qui va apparaître ? La Russie prise toujours dans cette contradiction Est-Ouest, la Russie est-elle en fait capable d'avoir à la fois une politique à l'Est et à l'Ouest ? Ou bien doit-elle choisir entre l'Orient et l'Occident ?
Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect géopolitique qui a été parfaitement analysé à l'instant par Emery Choprade. Et par ailleurs, il y a des tendances de fond qui appartiennent à un autre univers. Les tendances de fond que on pourrait dire culturelles, c'est-à-dire toute grande civilisation, tout grand peuple porte en lui des tendances de fond qu'il marque. Ce ne sont pas elles qui déterminent nécessairement la politique, notamment la politique extérieure, mais ce sont elles qui colorent le visage de la société, et dans le cadre de la Russie, ces tendances de fond n'ont pas cessé de colorer fortement avec des changements constants, n'ont pas cessé de colorer l'histoire intérieure, l'histoire de la société russe, l'histoire des idées en Russie, l'histoire culturelle au sens large de la Russie. Alors là, il faut en revenir certainement à ce qui avait marqué, ce qui a marqué pendant des siècles en profondeur l'esprit de la Russie, c'est-à-dire l'influence de l'orthodoxie. Cette influence qui commence de façon tout à fait superficielle au Xe siècle lors de la décision de conversion de Vladimir, mais qui progressivement, au fil du temps, s'enracinera et marquera la conscience russe. Avec une particularité qui est plusieurs particularités qui appartiennent au monde orthodoxe. Première particularité qui est d'ordre politique. Dans le monde orthodoxe, contrairement au monde latin, monde catholique, et dans une certaine mesure, après la réforme, dans une partie du monde protestant, dans le monde orthodoxe, l'Église est subordonnée par rapport à l'empereur. L'empereur exerce en quelque sorte les deux pouvoirs, où il réunit dans sa personne les deux pouvoirs et les deux glaives. Le glaive temporel et le glaive spirituel. C'est une particularité du monde orthodoxe. Et cette particularité ne cessera pas de se maintenir tout au long de l'histoire russe. La deuxième particularité, c'est que dans le monde, contrairement au monde catholique par exemple, dans le monde orthodoxe, s'est développé au fil du temps une sorte de mystique qui a coloré la Russie, qui veut que la cité de Dieu, l'utopie chrétienne en quelque sorte, mais qui dans le monde catholique est reportée au-delà de notre monde vivant, est reportée dans l'autre monde justement. Dans le monde orthodoxe, il se réalise immédiatement. C'est-à-dire que les pays orthodoxes, et la Russie précisément, devient mystiquement déjà la cité de Dieu sur terre. Ce qui a plusieurs effets. Tout d'abord, la cité de Dieu mythique qui existe dans l'imagination n'existe pas dans la réalité. Ce qui fait qu'il y a une opposition entre une aspiration, le désir de quelque chose et une réalité qui ne correspond pas à ce désir. Donc, l'existence d'une sorte d'utopie permanente. dont on retrouvera d'autres dont on verra des manifestations ultérieurement. On peut dire qu'à sa façon,
dans les domaines artistiques,
mais le communisme a été ça, c'est-à-dire que les soviétiques n'ont pas cessé de prétendre que le socialisme était réalisé, c'est-à-dire qu'il y avait le plaquage d'un monde illusoire sur une réalité qui était totalement différente. Mais cela existait déjà dans une certaine mesure avec le monde orthodoxe. Et l'on peut dire que en ce domaine, dans d'autres aussi, un certain fond culturel n'a pas cessé à travers le temps, y compris dans une période qui, en apparence, était en opposition totale et en rupture totale avec l'histoire culturelle de la Russie. Le troisième aspect, influence importante de l'orthodoxie, que nous évoquions tout à l'heure succinctement, c'est le développement à partir du XVIe siècle, principalement. Oui, c'est à partir du XVIe siècle, donc après la chute de Constantinople et après que la Russie ait revendiqué l'héritage pour elle-même exclusif de Constantinople en se prétendant être la troisième Rome avec une vocation universelle, c'est alors qu'apparaît cette donnée particulière d'un messianisme russe. Messianisme russe qui lui-même va se maintenir sous des formes extérieures variables, et l'on peut dire que le communisme lui-même est une extension de ce messianisme. Alors comment les choses se sont-elles passées? Parce que ce qu'était l'orthodoxie du XVIe est évidemment très différente à partir du XIXe siècle, où la Russie est à la fois entrée progressivement dans la modernité, elle est entrée en relation avec l'Europe depuis Pierre le Grand et de façon constante par la suite. La Russie, en raison de ce messianisme orthodoxe, de son messianisme national, la Russie a une haute idée d'elle-même, mais a-t-elle les moyens de cette haute idée? Et c'est là que la Russie va affronter un défi important au XIXe siècle. Début du XIXe siècle, guerre contre Napoléon. La Russie en sort victorieuse, formidable. C'est la démonstration qu'elle est devenue vraiment une très grande puissance. 1814-1815. Le rôle capital que va jouer Alexandre Ier dans la constitution de la Sainte Alliance, etc. Donc la Russie devient une puissance politique considérable dans le monde de l'époque. Mais les Russes, l'élite, n'ignore pas que la Russie n'a pas le niveau de développement intellectuel, les universités, les industries naissantes, le commerce, etc., que l'on trouve en Europe occidentale. Alors comment faire? Et c'est à ce moment-là que les intellectuels russes vont développer un ensemble de théories que l'on va appeler le slavophilisme. Slavophilisme, qu'est-ce que c'est? Et en résumé, en simplifiant beaucoup les choses, c'est une sorte de compensation. La Russie, certes, n'a pas atteint le développement civilisateur, au sens courant du mot, qui est celui de l'Europe occidentale, c'est-à-dire que elle n'a pas les mêmes industries, les mêmes universités, etc. Mais, en revanche, elle porte en elle une dimension supérieure qui est d'ordre spirituel. Matériellement, elle est sans doute inférieure à l'Europe, mais spirituellement, elle lui est supérieure, puisque d'abord, elle est le siège de la seule véritable religion, et même pour ceux qui se sont séparés de l'orthodoxie, cette idée imprégnée par l'orthodoxie que la Russie a une dimension spirituelle supérieure va se maintenir. Et un certain nombre de slavophiles seront éventuellement athées, ils auront rompu avec l'orthodoxie, mais ils n'auront pas rompu avec l'idée de la supériorité spirituelle de la Russie. Voilà. Et ce, alors, simplifions les choses, ce courant d'affirmation nationaliste, en quelque sorte, par l'intermédiaire de la haute spiritualité russe, va colorer tout le 19e siècle et une grande partie du 20e, et parfois à juste titre. Le plus grand représentant du slavophilisme aujourd'hui, c'est évidemment Alexandre Solzhenitsyn. Il n'est pas contestable que cet homme seul représente une dimension spirituelle immense devant laquelle l'Europe occidentale d'aujourd'hui, les États-Unis, ne sont rien. Par la seule puissance de sa foi et de sa pensée, cet homme s'est opposé à la plus grande puissance matérielle de l'époque qui dominait son propre pays, c'est-à-dire la puissance communiste. Et il l'a fait trembler sur ses bases, incontestablement. C'est une démonstration de la puissance de l'esprit. Et je dois dire, en résumant, et en matière de conclusion, puisqu'on pourrait développer, on pourrait développer tout cela, c'est une leçon qui vaut la peine d'être méditée, parce que, en effet, le pouvoir de l'esprit n'est pas négligeable, et Solzhenitsyn nous en a apporté la démonstration. Alors, ce courant slavophile, à partir du 19e siècle, s'est heurté en Russie à un autre courant, totalement opposé, que l'on appelle occidentaliste. C'est-à-dire tous ceux qui...
Toujours l'hésitation entre ces deux tendances profondes.
Voilà. Alors, le courant occidentaliste, c'est Pierre le Grand, en quelque sorte. Hein? C'est-à-dire, l'exemple à suivre, c'est l'Europe. Enfin, l'Europe occidentale, par la suite, les États-Unis, etc.
Donc, le repli...
Il faut prendre des leçons en Europe. C'est l'Europe qui représente... Ce n'est pas nous, Russes, qui représentons... qui sommes supérieurs, comme le disent les slavophiles, parce que spirituellement nous sommes supérieurs. Non, nous sommes au contraire inférieurs. On doit se mettre à l'école de l'Europe. On doit faire comme les Européens. On doit créer des universités analogues. On doit créer des industries. On doit créer du commerce. On doit créer des institutions politiques différentes, notamment des institutions, un système constitutionnel qui va miner de l'intérieur l'autocratie, ce qui fait que la monarchie russe, elle, tout au long du 19e et jusqu'à son renversement en 1917, va se trouver saisie entre les deux courants. Tout à la fois, la monarchie a besoin naturellement d'une modernisation pratique et matérielle de la Russie. Donc, elle est favorable et elle va pousser dans le sens de l'occidentalisation. C'est elle qui va entreprendre toutes sortes de réformes, à commencer par les réformes de l'enseignement secondaire, de l'enseignement universitaire. Elle va entreprendre des réformes dans le domaine juridique, très importantes. Elle va favoriser développement de l'industrie, développement du commerce. Tout cela va dans le sens de l'occidentalisation. Mais l'occidentalisation signifie que les bases même de l'autocratie se trouvent fragilisées. Et cela, un certain nombre d'empereurs, de tsars, en sont conscients. C'est la raison pour laquelle ils voudront simultanément s'appuyer sur le courant slavophile. C'est ce que fait, entre autres, Nicolas Ier, qui a créé une sorte de slavophilisme d'État, avec une devise qui était « autocratie, orthodoxie, Narodnost. Narodnost, c'est le nationalisme russe. Narodnost, c'est la patrie. Patriotisme, en quelque sorte. Hein. Autocratie, orthodoxie, patriotisme. Voilà, les bases. Bon. Et il faut bien dire que ce qui se dégageait, c'est-à-dire les défis qui se posaient à la monarchie russe au XIXe siècle, bien, n'ont pas cessé de se poser dans une certaine mesure.
La Russie est-elle capable de faire la synthèse ?
Alors, aujourd'hui, ce sont des problèmes analogues qui se posent dans une certaine mesure plus grave, puisque la rupture de 70 ans de régime communiste qui a laminé toutes les anciennes structures, qui a détruit en grande partie la culture russe, fait que la Russie est devenue presque une table rase. Pas complètement, bien entendu. Pas complètement, parce que on n'a pas cessé de voir, d'ailleurs, au fil du temps, y compris sous la période communiste, et à plus forte raison, depuis plus de 10 ans, on voit réapparaître les tendances de fond. Et le problème qui se pose aujourd'hui à un Vladimir Poutine et ultérieurement à des successeurs ressemble assez au problème qui se posait à Nicolas Ier, qui était de trouver, puisque Poutine et ses successeurs vraisemblablement sont des nationalistes, leur désir, c'est comme celui du grand Stolypine au début du XXe siècle, nous voulons une grande Russie. Comment parvenir à une grande Russie qui soit russe, qui ne soit pas une copie des États-Unis ou qui ne soit pas une copie de l'Occident? Eh bien, c'est d'être à la fois moderne, c'est-à-dire occidentaliste, et c'est d'être en même temps russe, c'est-à-dire de s'appuyer sur les spécificités et la longue tradition qui est celle de la Russie.
Merci Dominique. Nous avons de très nombreux messages d'auditeurs, notamment deux remarques qui sont importantes. Pouvez-vous nous les lire, Victoria ?
Je me permets de rappeler quelques petits substrats dans la relation Europe-Russie. Les deux prises de Constantinople aidées par le pape, la très stupide guerre de Crimée, la très infâme agression contre la Serbie. Voilà quelques pistes.
Et une autre question.
Dominique Vénère réduit l'Église orthodoxe à l'Empire russe. Les peuples qui sont de rite orthodoxe sont multiples et différents. Ils ont des développements particuliers à chacun. Et l'Empire russe est un phénomène spécial dans la religion chrétienne. Les Russes sont imbibés de mysticisme et leur conception de la foi chrétienne est nébuleuse.
Vous avez une minute pour répondre, car nous allons avoir la rupture de 19h30.
Oui. Alors, la deuxième observation est tout à fait juste. Il est bien évident que la Russie n'est pas la totalité du monde orthodoxe, et le monde orthodoxe a ses particularités propres en dehors de la Russie, bien entendu. Vaste sujet, d'ailleurs, très intéressant, sur lequel on pourrait revenir un jour.
Quant à la deuxième prise de Constantinople, la papauté n'y est pour rien.
Alors, non, la deuxième prise de Constantinople, au contraire, puisque la papauté avait fait les plus grands efforts pour s'efforcer de résister contre la conquête turque. En revanche, bien entendu, pour la première conquête, celle de 1204, qui est un peu oubliée chez nous, cette conquête a laissé, en revanche, des souvenirs très vifs dans le monde russe. Et il est toujours intéressant. L'histoire est intéressante pour mille raisons, mais notamment l'histoire d'un pays est intéressante parce que elle permet de comprendre la façon de voir des autres. L'interprétation russe est marquée par son propre passé.
merci de passer la soirée en notre compagnie. À 21h tout à l'heure, les soirées musicales. Je passerai la première heure avec vous pour Série Jazz. Et puis à 22h, rendez-vous avec Claudio pour les musiques de films. Ce soir, cinéma français et grands ensembles de jazz. Mais tout de suite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé, je vous le rappelle, par Bernard Lugan. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 19 mars 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou bien par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. La première partie de l'émission était consacrée aux relations entre la Russie et l'Europe, et la seconde partie de l'émission va être consacrée à l'Afrique. Victoria, nous avons un certain nombre de messages à communiquer à nos auditeurs.
Oui.
Auriez-vous l'amabilité de les lire, s'il vous plaît?
Le samedi 22 mars, de 15h à 19h, le général Pierre-Marie Gallois dédicacera le devoir de vérité à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Demain, jeudi 20 mars, à 17h, à la mairie de Versailles, amphithéâtre Montgolfier, conférence de Monsieur Philippe Levillain, professeur d'histoire à l'université de Nanterre, sur le sujet Pie XII, la papauté et la Shoah. Renseignements au 01 39 51 69 70. Fêtez la mi-carême le jeudi 27 mars avec le chœur Montjoie-Saint-Denis chez la Mère Agitée, 21 rue Campagne Première, Paris 14e. Métro Raspail, dîner 25 euros, tout compris. Réservation indispensable parce que les places sont limitées, le nombre de places est limité, au 01 43 35 56 64. Le 26 mars prochain, messieurs Dillinger, Delpart et Monneret feront une conférence sur les conséquences tragiques des accords d'Évian. Cérémonie avec sonnerie aux morts et lancée de gerbes, entrée gratuite. T téléphone pour les inscriptions 01 45 74 09 et rendez-vous sur un bateau mouche au pont de l'Alma à partir de 14h15. Ensuite, une messe à la mémoire des victimes de la fusillade de la rue d'Isly et de celle d'Oranie sera célébrée à 18h30, le 26 mars également, en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Voilà.
Merci Victoria.
Et pour la nouvelle revue d'histoire, on me pose la question, on la trouve dans tous les kiosques. Et si on veut s'abonner...
Si on veut, on doit s'abonner.
C'est très souhaitable de s'abonner.
Ah oui.
Ça dépend si on a les toutes petites boîtes aux lettres, qu'on a des problèmes quand on est abonné. Donc on préfère acheter en kiosque. Et puis ça fait de la pub. On peut parler autour. Alors,
mais c'est sur les abonnés qu'une revue fonde sa survie. Parce que c'est avec les abonnements qu'une revue peut avoir une gestion à long terme. Tandis que les ventes au numéro sont essentielles, mais ce sont des ventes au coup par coup. Et lorsque l'on veut aider une revue, le seul moyen de l'aider, c'est de s'y abonner, Victoria.
Alors, auditeurs, à vos porte-monnaies. Et vous écrivez 88 Avenue des Termes, Paris 75017 Paris. Et si, l'abonnement annuel est de 32 euros. Et si vous voulez vous renseigner, c'est pour la France, hein, il y a d'autres. Alors, si vous voulez d'autres renseignements, vous téléphonez au 01 40 54 01 70.
Répétez-le, s'il vous plaît.
Qui est le numéro de téléphone de la nouvelle revue d'histoire que dirige Dominique Vénère. Vous le répétez, ce numéro, s'il vous plaît, oui.
01 40 54 01 70.
Merci, Victoria. Nous allons passer maintenant à la seconde partie de l'émission. Après la Russie et l'Europe, les steppes de l'Asie centrale, nous allons passer au sud de la Méditerranée, même au sud du Sahara. Et nous allons parler de l'Afrique. Tout d'abord, très rapidement, de l'actualité africaine. Et ensuite, d'un livre qui vient de sortir. Mais je transmets le flambeau à Philippe Conrad.
Oui, alors en ce qui concerne l'actualité africaine, nous avons déjà largement abordé la question de la Côte d'Ivoire à l'occasion des émissions précédentes. Il ne s'est pas passé d'événements particulièrement significatifs depuis. Donc nous allons surtout nous intéresser aujourd'hui à la République centrafricaine.
Dont nous avons longuement parlé lors de dernières émissions également. Nous allons faire un point d'actualité simplement. Voilà.
Oui, puisque un certain nombre d'événements sont produits tout récemment avec le coup d'état du général Bozizé qui a donc contraint Ange-Félix Patassé, AFP, à se replier sur Yaoundé d'une manière inattendue à l'occasion d'un retour d'un voyage officiel à Niamey au Niger. Alors, au lendemain de ce coup d'état, qui a été unanimement condamné, d'ailleurs, j'ai vu par les capitales africaines, par la France, parce que évidemment nous sommes loin de la vision démocratique qui était mise en avant ces dernières années. Que s'est-il passé et que peut-on dire de la situation à Bangui, Bouare et autres lieux, mon cher Bernard?
Eh bien, déjà, les auditeurs de Radio Courtoisie ne sont pas surpris et les abonnés de l'Afrique réelle non plus. Puisque nous avons consacré le mois dernier une partie de la mission actualité africaine à la Centrafrique. Et également pour les abonnés de l'Afrique réelle, parce que un des dossiers du numéro de l'automne 2003, de l'hiver 2003, pardon, est précisément consacré à la question centrafricaine. Donc nous annoncions les événements et ce putsch militaire est le 11e d'une longue série de putsch qui se sont déroulés ces dernières années. Vous disiez que ce putsch du général Bozizé a été unanimement condamné. Non, non. L'on peut dire que une partie de la communauté internationale a accueilli avec soulagement ce putsch. Parce que la situation de la Centrafrique sous la direction de M. Ange-Félix Patassé confinait à la situation du royaume du Père Ubu. Et le président Patassé, qui avait été élu au suffrage universel avec une majorité confortable, parce qu'il avait rassemblé autour de lui les principales ethnies du pays, a, par ses maladresses et par sa mégalomanie, réussi à dresser contre lui, l'une après l'autre, ses principales ethnies. Et le sort du président Patassé a été scellé, le jour où les Gbaya sont entrés dans l'opposition. Or, le général Bozizé est un Gbaya. Les Gbaya, qui constituent une des principales ethnies de la Centrafrique, qui vivent dans l'ouest de la Centrafrique, et qui jusque-là avaient été un soutien ferme du régime Patassé. Ce sont les Gbaya qui, en grande partie, avaient aidé le président Patassé, qui lui-même est Sara, donc une ethnie du nord de la Centrafrique, qui lui avait permis de lutter contre les diverses rébellions militaires des Yakoma et autres populations du fleuve. Dans ce jeu de bascule qui est constant dans ce non-État, dans cette création artificielle qui est la Centrafrique, nous notons cette opposition entre les ethnies du Nord et celles du fleuve, et les ethnies intermédiaires comme les Gbaya ont le rôle déterminant. Et les Gbaya ont réussi à créer autour de l'union sacrée de tous les adversaires d'Ange Félix Patassé, retournant la stratégie de coalition contre le président, puisque l'on retrouve aux côtés des Gbaya leurs ennemis des précédentes opérations, des précédents putsch, c'est-à-dire les Yakoma. Une partie des Yakoma se retrouve avec les Gbaya. Ça ne va pas durer, bien sûr. Ça ne va pas durer. Mais la situation est une situation qui s'est totalement retournée. Et nous l'annoncions. Par exemple, la fin du dossier Centrafrique dans l'Afrique réelle se terminait par la phrase suivante. Le 7 décembre 2002 à Paris, une coalition regroupant tous les opposants au régime Patassé a été constituée. Donc, tous les opposants qui jusque-là se combattaient les uns les autres se sont réunis. La descente aux enfers de la RCA, l'ancienne cendrillon de l'Empire français, n'en finit pas. C'était tout à fait prévisible. Donc ce coup d'État est un coup d'État qui ne va rien régler, mais qui soulage énormément un certain nombre de pays voisins, notamment le Congo RDC, le Congo Kabila. Pourquoi ? Parce que, jusqu'à présent, la rébellion qui tient le nord du Congo, la rébellion de Jean-Pierre Bemba, prêtait main forte à Ange-Félix Patassé pour se maintenir au pouvoir. Alliance contre nature, mais alliance d'un prédateur et de troupes de pillards au sud du Congo, avec un régime totalement superficiel et artificiel en RCA. Or, la réaction de Kinshasa a été tout à fait immédiate. Kinshasa a salué et a encouragé le général Bozizé, tout simplement parce que désormais, Kinshasa pense que la rébellion du Nord n'aura plus une base arrière de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire en République centrafricaine. La France a repris pied à Bangui à l'occasion de cette opération. La France, qui avait totalement quitté la RCA depuis quelques années, a repris pied, puisque nous avons sur place 300 à 400 hommes qui ont sécurisé la ville de Bangui, sécurisé entre guillemets, évitant aux Européens de subir autre chose que les pillages qu'ils ont subis, car la ville a été totalement pillée une nouvelle fois. Bangui a été totalement vidée de toutes ses richesses, véritablement comme si une armée de fourmis voraces s'était abattue sur la ville. Tout était enlevé, les portes des maisons, les fenêtres, tout a été pillé. Des colonnes de pillards sont reparties vers l'intérieur, portant sur la tête tout ce qu'ils avaient pu voler à Bangui. Il n'y a plus rien à Bangui. Et l'armée française est intervenue dans la plus grande discrétion. On a très peu parlé de cela. Est intervenue très vite, avec une très grande efficacité, pour protéger les quelques ressortissants européens qui vivent encore dans cette ville de Bangui, qui a été une ville tout à fait superbe. On parlait à l'époque coloniale de Bangui la coquette. Allez voir ce qu'est devenu Bangui. La coquetterie est oubliée depuis longtemps. Voilà donc ce que l'on pouvait dire concernant la RCA. Mais l'arrivée au pouvoir du général Bozizé ne va rien changer au problème. Le problème est que c'est un État artificiel, cette République centrafricaine, que les ethnies sont antagonistes et que les alliances de circonstances ne sont que des alliances de circonstances.
Donc on a le scénario classique, en fait, d'une marche inéluctable vers le chaos.
Oui, une marche inéluctable vers le chaos, la désintégration, une marche inéluctable vers le néant. Le titre du dossier de l'Afrique réelle était « République centrafricaine, du chaos ethnique au néant politique ». Un article qui est sorti donc il y a un mois et demi, qui annonçait tout à fait la situation.
Ce qui résume parfaitement la situation, diagnostic qui vaut pour un certain nombre d'autres pays africains d'ailleurs.
Tant que nous n'aurons pas repris des définitions élémentaires, et nous allons en parler à l'occasion de la sortie de mon livre.
Ce qui nous permet de faire la transition avec God Bless Africa, donc le livre...
Contre la mort
oui, programmée... Oui, dont le sous-titre est important. Hein,
contre la mort programmée du continent noir.
Donc publié aux éditions Carnot, et un livre qui est un petit peu la synthèse d'une trentaine d'années de travail et de réflexion et d'expérience, surtout de l'Afrique noire. un livre qui...
Là, je ne parle que de l'Afrique noire dans ce
oui,
livre.
Bien sûr.
Je ne traite pas du tout de l'Afrique du Nord.
Bien sûr. Et c'est un livre dont on espère qu'il va avoir un retentissement important, puisqu'il est traduit d'emblée, dès son lancement, dans plusieurs langues, en anglais... en français, en russe, en portugais, donc
il va être traduit également dans les principales langues des Indes.
Voilà.
Et il va être traduit en espagnol également. C'est un livre qui est destiné, puisque en France nous avons un boycott systématique et puis nous avons une censure. Mm-hmm. Eh bien, nous allons contourner la censure par une édition mondiale.
Voilà, et on peut espérer un effet d'électrochoc.
Et nous parlerons de la censure peut-être tout à l'heure.
Pour qu'enfin un certain nombre de prises de conscience puissent s'effectuer, et pour que ce malheureux continent noir, justement, ce malheureux continent africain, puisse retrouver les voies du développement, de la prospérité, puis les voies de son identité aussi, sa mémoire.
Je vais revenir sur les traductions simultanées et les parutions simultanées, parce que je suis enfin tombé sur un éditeur qui avait le sens, le sens des opportunités. Jusqu'à présent, mes autres éditeurs, qui étaient des gens tout à fait compétents et tout à fait sympathiques, étaient dans une logique franco-française. Or, nous sommes rendus compte, au bout d'un certain temps, que cette logique franco-française était une logique d'enfermement. Pourquoi ? La France est le dernier pays trotskardo-marxiste, le dernier pays dans lequel existe une police de la pensée qui empêche de dire les choses telles qu'elles sont dans ce domaine de l'Afrique. Nous avons, dans les médias, nous avons dans les universités, nous avons dans les institutions du corps de l'État, un enquistage des trotskistes, et nous avons des buts témoins de la pensée post-marxiste des années 60 qui paralysent toute réflexion de fond sur la question. Alors, je publie livre après livre, j'ai 15 livres que je publie, j'ai un public qui lit cela, mais ce public est toujours le même. Il est impossible de rayonner, tout simplement parce que l'on ne parle pas de mes livres dans la presse, je suis boycotté au Figaro. Bon. C'est extraordinaire. L'on refuse de parler de mes livres dans le spectacle du Monde depuis 3 mois. Depuis un an. Terminé. Le spectacle du Monde ne parle plus de mes livres. Donc, il ne reste que la presse amie, ce qui fait que nous avons forcément là un monde qui est un monde relativement réduit. Puisqu'il y a ce boycott en France, et puisqu'il est impossible en France de faire passer des idées une réalité, eh bien, nous avons renversé complètement le système. Nous sommes des combattants. Puisque telle position est absolument imprenable, eh bien nous allons la contourner, cette position. Et mon livre va être distribué par le plus grand distributeur anglo-saxon, c'est-à-dire qu'il va être distribué des dizaines de milliers d'exemplaires. Il va être distribué par les plus grands distributeurs portugais, espagnols, etc. Ce qui fait que ce livre n'aura aucun écho de presse en France, mais ce livre va véritablement créer un choc psychologique dans les pays extérieurs, notamment dans le monde anglo-saxon. Et vous verrez que la presse française, qui est toujours à la remorque de la presse anglo-saxonne, parlera de ce livre quand le livre va faire débat. Songez que je ne suis pas encore invité sur les grandes chaînes de télévision et de radio en France, mais j'ai déjà plusieurs émissions de télévision prévues aux États-Unis. Nous sommes véritablement dans un monde, en France, dans lequel il y a un décalage entre la petite clique marxisto-trotskiste et post-68arde qui tient le pays et le pays réel. Nous sommes vraiment là dans l'image de Maurras, le pays légal, pays réel. Le pays réel est totalement coupé de son pays légal médiatique. D'où les scandales de presse avec l'affaire du Monde, d'où les scandales d'école de journalisme, etc. Tout simplement parce que on se rend compte que ce monde est en coupure totale avec la réalité. Vient à Lyon, invité à Lyon par les sciences politiques, l'Institut des sciences politiques, la semaine prochaine, un universitaire, chercheur, qui va parler de la question du génocide du Rwanda. Qui a-t-on invité ? Jean-Pierre Chrétien, qui va encore expliquer une fois de plus que les Tutsis et les Hutus sont des créations coloniales. Comment voulez-vous que l'on avance avec ce genre de comportement et avec ce genre de blocage. C'est pour cela que mon éditeur a eu l'idée tout à fait intelligente de sortir ce livre dans toutes les grandes langues de communication de la planète, et il va même sortir aux Indes, dans les principales langues des Indes. Et comme ça, nous allons bien voir que les petits marxistes, les petits trotskistes français vont se retrouver à leur taille de pois chiche et à leur niveau de petites lentilles accrochées sur la division blindée qui est en train d'avancer.
Mais rassurez-moi, cet aimable fantaisiste qu'est Jean-Pierre Chrétien, ce n'est pas à Lyon 3 qu'il est invité.
Non, à Sciences Po, Lyon, à Lyon 2. Donc, il vient faire une conférence sur le génocide de 1994. Ouais. Il est parfaitement bien placé pour en parler, étant donné que depuis 30 ans, il a expliqué aux responsables français et à l'opinion française qu'il n'y a pas de Tutsi, il n'y a pas de Hutu, et que c'est la colonisation qui les a créés. Heureusement, qui a tué qui?
Qui a ton génocide?
Voilà. Donc,
on aurait pu imaginer un débat, d'ailleurs, à cette occasion.
Tout à fait, tout à fait.
Dans un pays normalement constitué.
Alors tout à fait, voilà donc pourquoi je voulais préciser cela, et pourquoi ce livre est un livre qui est conçu dans cette optique-là. C'est un livre qui est conçu dans l'optique de contourner la censure, de contourner les blocages, et de faire sauter les verrous du politiquement correct qui bloque totalement toute réflexion en histoire africaine et dans les études africanistes.
Peut-on être raisonnablement optimiste quant à la réalisation de cet objectif?
Ah ben dites en cours, c'est en cours. C'est plus qu'en cours. Le livre va être distribué aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Espagne dans les jours qui viennent. Et la presse va en parler parce qu'il y a une presse libre dans le monde anglo-saxon.
Oui.
On peut penser ce que l'on veut du monde anglo-saxon, mais il y a une liberté qui n'existe pas en France. Pensez donc en France, les deux revues, les deux journaux qui sont soi-disant des journaux de droite. Le Figaro ne va pas dire un mot de mon livre, puisque Monsieur de Chaise-Martin, le directeur du Figaro, m'exclut des fêtes du Figaro.
Circonstances
et tout à l'heure, je parlais tout à l'heure d'un Jean et je ne reciterai pas parce que, mais c'est tout à fait inadmissible. Passons au livre, si.
J'ai un message tout à fait intéressant qui concerne ce que vous venez de dire. Je travaille à la maison, c'est un auditeur, je travaille à la maison de la radio et je peux témoigner que vous avez été censuré sur France Culture le dimanche 9 mars. Votre entretien sur votre dernier livre, God Bless Africa, qui devait être diffusé à 12h45 dans la rubrique Le Livre du Jour, a tout simplement été déprogrammé en raison des protestations de plusieurs journalistes qui ont obligé le réalisateur de l'émission à vous censurer. Je suis écœuré par de telles méthodes.
Ah bah, j'ignorais totalement. Si cet auditeur veut bien, hors antenne, me téléphoner, j'aimerais bien avoir son nom, son numéro de téléphone, parce qu'il est bien évident que je ne vais pas laisser passer un tel acte de censure. Mais j'ignorais complètement... Oui, alors que s'est-il passé?
Oui.
Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Vendredi dernier, vendredi précédent, quelle date
vous étiez? Le 9 mars.
Oui, le vendredi 8 mars.
Dimanche 9 mars.
Oui, le vendredi 7 mars.
Non, le dimanche 9 mars.
Oui, je reçois le vendredi, Victoria, je connais mon emploi du temps. Le vendredi 7 mars, je reçois un coup de téléphone sur coup de téléphone de France Culture. Mon attaché de presse me téléphone également, c'est très important, il faut que vous montiez demain à Paris pour enregistrer votre émission, car votre livre a été considéré comme très important par France Culture, et ils veulent le présenter comme le livre du jour, lors du journal de dimanche, à midi et demi, 1h-20. Écoutez, je monte à Paris mardi et mercredi, est-ce si urgent que cela? Demain, samedi, je n'ai pas vu ma famille depuis un certain temps, est-ce vraiment, ça ne peut pas attendre mardi? Non, venez absolument. Bon. Je passe ma journée de samedi dans le TGV. J'arrive à Paris à la maison de la radio. J'enregistre mon entretien. J'enregistre 9 minutes d'entretien pour en passer 6 minutes. Tout se passe très bien. Ce qui, bons amis, et le réalisateur me dit, votre entretien passera demain matin à midi et demi. Et l'entretien n'est jamais passé. Alors, ce que dit cet auditeur m'intéresse beaucoup, parce que je ne savais pas qu'il y avait eu un acte de censure. Moi, je pensais qu'il y avait simplement une déprogrammation et que mon entretien allait passer plus tard. Mais c'est puisque cet auditeur travaille à la maison de la radio qui m'apprend cela, ça change absolument tout. Et je demande donc à tous les employés de la maison de la radio qui écouterait Radio Courtoisie et qui pourrait me confirmer ce fait, de prendre contact avec moi après l'émission, car il est bien certain que je vais confier cette affaire à mon avocat pour consultation.
Alors venons-en donc au fond du livre qui encore une fois est un petit peu une.
Nous avons donc nous aurions donc la preuve de ce que je vous disais, la censure.
Oui, bien sûr.
Donc tout l'intérêt de publier ce livre en anglais pour contourner cette censure par le monde anglo-saxon.
Oui, donc ce livre dont je disais tout à l'heure qu'il était une synthèse d'une trentaine d'années de travaux et de réflexions et qui s'organise selon deux axes. Tout d'abord une partie critique qui remet en cause toute l'idéologie dominante à propos de l'histoire africaine et de toutes les contre-vérités qui sont véhiculées sur ces questions. Et puis une autre partie dans laquelle vous proposez un certain nombre de pistes de réflexion
et de
dans
solutions.
La perspective d'éventuelles solutions ou d'éventuels progrès donc de ce malheureux continent noir.
Alors Philippe Cora, je vous coupe. Les solutions constituent pour moi une approche totalement nouvelle. Car jusqu'à présent, j'étais toujours resté dans le domaine de l'histoire. Jusqu'à présent, j'avais toujours expliqué les phénomènes, je les avais décrits, mais je m'étais bien gardé de donner des pistes de solutions. Tout simplement parce que je ne voulais pas passer pour ces docteurs miracles qui arrivent avec des solutions toutes faites. Mais la situation de l'Afrique est telle, le continent noir est en train de mourir, et l'on ne peut pas le laisser mourir ainsi. Et c'est pour cela que je suis sorti de la réserve que je m'étais imposée depuis des dizaines d'années, depuis 30 ans je travaille sur l'Afrique, pour donner des directions, nous en parlerons tout à l'heure, qui ne sont pas des solutions miracles, mais qui sont des axes de réflexion et d'approfondissement.
Oui, alors il y a tout d'abord un certain nombre de chapitres qui se penchent sur la victimisation de l'Afrique. On nous a expliqué depuis la décolonisation que si les choses n'allaient pas en Afrique, que si l'économie de ces pays ne pouvait décoller, s'ils étaient incapables de trouver une stabilité politique, c'était le résultat donc d'une histoire qui avait été pour eux particulièrement calamiteuse, et ces misères, elles trouvaient leur origine dans l'action des Européens, les Européens qui avaient dévasté le continent avec la traite négative hier dans un premier temps, avant d'en piller les richesses ensuite à l'époque coloniale. Alors on savait bien que toute l'exagération qu'il pouvait y avoir dans ces diverses approches, les gens qui ont connu l'époque coloniale savent bien que la caricature qui en a été donnée ne correspond pas du tout à la réalité, mais là vous avez rassemblé tous les travaux les plus récents sur ces questions pour établir je dirais des synthèses qui sont aussi clair que définitive, pour nous montrer à quel point, eh bien, on nous a menti, combien on a menti également aux Africains sur ces diverses questions. Et tout d'abord sur la question de la traite négrière, qui n'a pas été, bien sûr, uniquement le fait des Européens. Des Européens qui, faut-il le rappeler, ont été ceux qui y ont mis un terme, alors que la traite musulmane a continué encore longtemps après. Et des pratiques, l'esclavage, qui existait bien sûr en Afrique avant que les Européens n'y mettent les pieds. Alors la question qui se pose par rapport à l'argument qui est souvent avancé, est-ce que la traite négrière a dépeuplé l'Afrique ? Est-ce qu'elle a été à l'origine d'un déficit démographique catastrophique qui notamment dans tous les pays concernés par cette traite, notamment autour du golfe de Guinée, depuis la Côte d'Or jusqu'à l'Angola, est-ce que cette traite a eu effectivement les effets catastrophiques que l'on veut bien nous dire aujourd'hui? Je crois que là-dessus, oui, vous apportez un certain nombre de réponses originales et nécessaires.
Cette question de la traite est une question qui est déterminante. Parce que l'acte d'accusation de l'Europe et le procédé de victimisation de l'Afrique repose en partie sur la traite. Il faut bien voir que les historiens marxistes et post-marxistes ont développé une histoire de l'Afrique qui est une histoire totalement fausse. Et les Africains ont cru à cette histoire. Pourquoi ? Parce que les Africains ont été formés dans la période 1960-70 par ces historiens marxistes, aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne, et parce que ces historiens sont retournés au pays, ceux qui sont retournés au pays, et ont formé à leur tour des étudiants pour lesquels cette vulgate marxiste est devenue la réalité historique. Alors cet acte d'accusation repose sur une idée fondamentale. L'Europe est coupable de tout. Comme l'Europe est coupable de tout, elle doit payer des réparations et elle doit se laisser peupler et envahir par des populations
qui viennent lui demander réparation. D'autres termes, l'immigration n'est pas vue comme un déplacement de population, mais comme un juste retour des choses, puisque nous aurions pillé l'Afrique, puisque nous aurions dépeuplé l'Afrique avec l'esclavage, il est juste maintenant que nous assistions chez eux et chez nous, les descendants de ces malheureuses victimes du monde colonial européen depuis 3 siècles. Voilà l'acte de victimisation. Et c'est sur cette idée que repose tout le non-dit des relations entre le Nord et le Sud, entre le monde européen et l'Afrique. Car tout le monde est persuadé que ces 3 postulats sont vrais. Et ces 3 postulats étant mis en évidence, les Européens ont vis-à-vis des Africains des complexes. Et vous savez bien que quand quelqu'un a des complexes, il n'est pas lui-même. Et les Africains tirent des complexes des Européens une rente de situation. Ce qui fait que la situation devient très grave. Parce qu'au fur et à mesure que les découvertes historiques progressent, ces postulats explosent. Mais comme ils restent dans le subconscient des uns et des autres, il y a le non-dit qui interdit de mettre véritablement les cartes sur table pour véritablement voir ce qu'il est possible de faire pour l'Afrique. Or, pour remettre les cartes sur table, il faut faire sauter ce que j'appelle le paradigme de la victimisation. Et comment le faire sauter, ce paradigme de la victimisation ? Eh bien, en reprenant les 3 éléments de la désinformation historique. Les 3 postulats qui sont faux. Premier postulat, la traite n'a pas dépeuplé l'Afrique et la traite n'a pas enrichi l'Europe. Commençons par le plus facile. La traite n'a pas enrichi l'Europe. La traite a certainement enrichi des armateurs. Mais l'idée marxiste, qui est l'idée sur laquelle ce qui a été volé aux uns a permis d'enrichir les autres, est une idée économique totalement ringarde. Ce qui s'est passé, c'est que si les armateurs se sont enrichis, ils se sont moins enrichis que les rois africains qui avaient vendu les populations voisines ou leurs propres sujets. Nous avons notamment des études tout à fait intéressantes qui ont été faites par les historiens britanniques d'Oxford. Je renvoie souvent aux historiens britanniques parce que il n'y a pas chez les Britanniques ces frilosités ou ces blocages que nous avons chez les Français. Ou du moins, chez les Britanniques, tout le monde peut s'exprimer. Ce qui fait que lorsque vous avez des ouvrages en collaboration, vous avez des marxistes, mais vous avez également des non-marxistes. Et viennent d'être publiés en Grande-Bretagne 5 tomes avec l'appareil critique, 5 tomes d'un livre qui devrait évidemment être traduit en français. Ce sont les 5 tomes de l'histoire de l'Empire britannique d'Oxford. Alors nous laissons de côté la partie américaine, nous laissons de côté la partie asiatique pour nous intéresser qu'à la partie africaine. Eh bien, nous avons des contributions tout à fait étonnantes qui nous démontrent que les revenus retirés par les plus grands armateurs esclavagistes britanniques, et pour les Français il en était de même, étaient de 10 fois inférieurs aux revenus que les souverains et les chefs esclavagistes africains tiraient de la vente de leurs propres sujets ou des peuples voisins. Donc, s'il y a eu enrichissement, il est déjà partagé. Il n'y a pas eu un vol de substances à toute l'Afrique. Il y aurait eu une partie de l'Afrique, mais une autre partie s'est enrichie. Une partie de l'Afrique s'est enrichie en vendant l'autre partie de l'Afrique. Donc déjà, la traite n'a pas appauvri l'Afrique. Elle n'a appauvri peut-être qu'une partie de l'Afrique. Deuxième élément qui est important et qu'il importe de voir. La traite n'est pas, comme le disent les marxistes ou comme le disent les curés progressistes, la traite n'est pas à l'origine de la révolution industrielle européenne. C'est une aberration. Où s'est faite la révolution industrielle européenne ? Bien, elle s'est faite là où il y avait du charbon, là où il y avait du fer, là où il y avait du bois. Et la traite n'est pour rien dans cette révolution industrielle. Les Britanniques avaient déjà fait leur révolution quand la traite a eu lieu. Quant aux Européens continentaux, eh bien, la révolution industrielle s'est faite loin des littoraux. Si la traite avait dû provoquer la révolution industrielle, ce n'est pas en Bohême-Moravie, ce n'est pas dans la Ruhr, ce n'est pas en Lorraine que l'on aurait vu apparaître les usines mais les aciéries, mais à Nantes, à Bordeaux, à La Rochelle. Et quel serait le pays le plus riche en Europe s'il y avait un rapport entre le volume de la traite et le développement économique, le pays le plus riche en Europe aurait dû être le Portugal, puisque le Portugal avait le plus vaste empire colonial africain, le premier, le plus ancien, à l'époque de la traite, et que le Portugal, à lui seul, représentait 40% de la traite atlantique. Or, le Portugal a été le tiers-monde de l'Europe jusqu'à ces dernières années. Donc, en raisonnant ainsi, l'on voit l'abîme de désinformation que répandent les tiers-mondistes. Ensuite, l'autre question. Donc, nous faisons litière de cette accusation. La fortune de l'Europe s'est construite sur l'esclavage. Donc, totalement faux. Bon, je le démontre dans mon livre en reprenant un certain nombre de travaux d'auteurs britanniques et un certain nombre de travaux d'auteurs américains. Deuxième élément, qui est tout à fait fondamental, l'Afrique a été dépeuplée par la traite. Bien. Alors, raisonnons là aussi, d'une manière un peu comparative. Alors, si l'Afrique a été dépeuplée par la traite, on se demande véritablement d'où vient cette surpopulation dans les régions côtières. Parce qu'il est tout à fait frappant de constater que les zones qui sont les zones les plus surpeuplées aujourd'hui en Afrique, à l'exception du Rwanda et du Burundi, où il n'y a jamais eu de traite atlantique, les régions les plus peuplées, et j'allais même dire les régions surpeuplées, sont précisément les régions dans lesquelles s'est opérée la traite atlantique. Donc, si la traite atlantique a dépeuplé l'Afrique, que s'est-il passé? Il y a une génération spontanée. La réalité est que, premièrement, la traite ne s'est pas toujours déroulée dans les mêmes lieux. Il n'y a pas eu, pendant les 3 siècles de traite européenne, ponction qui s'est toujours faite au même endroit. Il y a eu des déplacements. Car les chefs africains savaient varier, savaient jouer des lois du marché, lois de l'offre et de la demande. Ce qui fait que dans les premiers siècles, dans les premières décennies, pardon, de la traite, ce fut la Sénégambie qui paya son tribut humain. Et au fur et à mesure que l'on avançait au XVIIe, au XVIIIe siècle, la traite se déplaça vers le golfe de Guinée et vers l'Angola. Donc il n'y a pas eu de ponction permanente sur les mêmes zones, à la différence de la traite musulmane, arabo-musulmane, qui, elle, s'exerça toujours sur les mêmes zones. Mais plus encore, des études ont été faites, et notamment des études qui ont été faites par des chercheurs britanniques, qui nous montrent véritablement l'exagération de ce postulat, pour ne pas dire la fausseté de ce postulat. Je renvoie à un auteur anglo-saxon qui s'appelle Hugh Thomas, et qui a publié un livre tout à fait important, qui est le livre qui fait la synthèse à l'heure actuelle sur les recherches les plus récentes concernant la traite atlantique, et qui s'appelle « La traite des esclaves ». Et Hugh Thomas nous dit, je cite, je traduis, c'est un texte en anglais, je traduis. La population de l'Afrique de l'Ouest était de l'ordre de 25 millions au début du XVIIe siècle, avec un taux de croissance de 17 pour 1000. La traite, qui prélevait 0,2% de la population par an, n'a pu avoir pour effet maximum que de ralentir l'essor démographique. Il n'y a pas, là, de démonstration, de confirmation de ce que disent les tiers-mondistes et les marxistes, bien au contraire. Tous les chiffres qui sont donnés par les auteurs marxistes sont des chiffres qui ne reposent sur rien. Par exemple, Catherine Kokrividrovitch, cite des chiffres totalement fantaisistes. Elle prend un chiffre de 100 millions d'habitants. Il est évident que si l'on prend le chiffre de 100 millions d'habitants, qui est un chiffre totalement artificiel, qu'on le multiplie par des rapports qui sont eux aussi artificiels, on arrive à dire n'importe quoi. Tandis que des estimations qui sont sérieuses, comme celle d'Hugues Thomas, montrent bien que la traite n'a prélevé que l'excédent d'une population, et pas toujours la même population. Ceci est fondamental. Ceci est fondamental, pourquoi ? Parce que nous avons là la démonstration de la réalité de la manipulation historique. Dans mon livre, je démontre que les pertes dues aux épidémies de peste en Europe, les pertes dues à la guerre de 30 ans, ont été 100 fois plus importantes que ce qu'a subi l'Afrique. Et à la différence de l'Afrique, qui a subi une traite esclavagiste sur 3 siècles, donc qui a, entre guillemets, épongé sur 3 siècles cette traite esclavagiste, les dégâts de la peste frappée sur 2 ou 3 ans. La peste noire, en 2 ans, a dépeuplé...
Un Européen sur trois.
Et dans certaines régions... Dans certaines régions de la Garonne, il n'y avait plus personne. Il a fallu que les habitants de la Haute-Auvergne descendent pour repeupler. Et les dégâts de la guerre de 30 ans, qui ont été concentrés sur une partie de l'Europe, ont été bien plus importants. Or, ces dégâts 100 fois plus importants, ces pertes humaines 100 fois plus importantes que celles que subit l'Afrique, n'ont pas empêché les progrès en Europe. Alors cette idée de victimisation est une idée que je développe très largement et qui ne repose sur rien.
Est-ce qu'on peut avancer un chiffre sur les 3 siècles?
Oui.
Quant au volume de population qui a ainsi été transféré d'Afrique vers le Nouveau Monde.
Tout à fait. Nous savons maintenant quasiment à 10 000 près quel fut le nombre des esclaves qui transitèrent vers le Nouveau Continent. L'on peut dire aujourd'hui que le nombre se situe entre 10,5 millions et 11,5 millions.
C'est ça, oui.
10,5 millions, 11,5 millions sur 3 siècles. Avec un pic sur 1,5 siècle à 2 siècles. Donc si vous mettez ce chiffre en rapport avec la population africaine, eh bien vous en arrivez à la conclusion d'un autre très grand, africaniste britannique qui s'appelle John Eliff et qui termine son chapitre de l'Oxford History en disant... La traite fut pour l'Afrique un désastre, mais pas une catastrophe. Voilà qui recadre les choses. Voilà qui remet les choses en place. C'est dans cette histoire que je vous citais, cette histoire d'Oxford. Oui. Premier élément, donc, de la culpabilisation.
Oui.
Alors,
à ce propos, on peut faire la comparaison avec la traite musulmane en Afrique orientale.
Nous n'avons pas de chiffres. Sauf pour l'Afrique orientale, effectivement. En Afrique orientale, nous savons que sur 70 ans, sur le seul marché de Zanzibar, ont été vendus 1,5 million d'esclaves. Sur le seul marché de Zanzibar.
Et cette traite musulmane s'inscrit dans une phase de durée donc beaucoup plus longue.
La traite musulmane débute au 8e siècle et se termine au 20e siècle.
Et sur un espace beaucoup plus grand parce que...
Tout le Sahel
et toute l'Afrique orientale.
Toute la région du Soudan et toute l'Afrique orientale. Mais je ne parlerai pas aujourd'hui de la traite musulmane car nous n'avons pas de chiffres. En revanche, nous sommes très bien documentés pour ce qui est de la traite européenne car les navires négriers avaient des livres de bord et les compagnies négrières avaient des archives. Donc nous savons exactement à l'unité près combien d'esclaves, de quelle ethnie, venant de quel port, quel âge, quel sexe, quel état de santé ont été transportés par tel ou tel navire. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je vais m'exprimer un peu mal car j'ai un rhume qui me prend la face. Mais qui m'empêche un peu d'avoir mon élocution habituelle. Alors donc, nous avons bien là la réalité. Cette réalité qui montre bien où est la désinformation. Alors, à ce sujet, je voudrais quand même vous parler de cette désinformation à propos de l'île de Gorée. L'île de Gorée. L'on nous présente l'île de Gorée comme étant le lieu sur lequel ont transité des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers d'esclaves. Alors, sur l'île de Gorée, vous avez donc la maison des esclaves qui a été restaurée d'une manière tout à fait remarquable par la Fondation France Liberté de Madame Mitterrand. Et lorsque vous visitez l'île de Gorée, les larmes vous viennent aux yeux. Aucun esprit normalement constitué ne peut rester insensible. Le problème, c'est que tout est faux. Parce que cette maison des esclaves qui nous est présentée, dans laquelle on nous montre les cellules où étaient enchaînés les enfants, les rigoles par où coulait le sang des victimes flagellées, parce que les négriers étaient tellement vicieux qu'ils tuaient la marchandise humaine qu'ils allaient vendre, n'est-ce pas? On sent toute la logique commerciale qui animait ces négriers. Ils étaient à la fois pervers, sadiques et de mauvais commerçants, puisque, en plus. Eh bien, tout est faux. Car la maison des esclaves a été construite quand? Eh bien, elle a été construite dans les années 1780 par une métisse de Saint-Louis, on appelait une signare qui s'appelait Anne Colas, et à une époque où il n'y avait plus de traite en Sénégambie. Car la traite en Sénégambie s'est produite dans la période 1620-1630. Et à l'époque où cette maison, présentée comme la maison des esclaves, était construite, il n'y avait plus de traite dans la région. Effectivement, dans cette maison, il y avait des domestiques, et probablement des domestiques esclaves, quelques dizaines, qui est peut-être 25 ou 30. mais ce n'était pas un centre de transfert d'esclaves. Et ce qui nous est présenté comme les cellules, ce sont les entrepôts pour stocker les vivres et les réserves, comme l'on faisait toujours dans les grandes résidences coloniales, déjà à l'époque. Alors voilà le grand mensonge. Et là où l'on voit que ces mensonges rendent un mauvais service à la traite, aux Africains, un mauvais service aux Africains, c'est que la vérité commence à éclater. Et cette vérité commençant à éclater va aboutir au résultat suivant. Quand véritablement l'on saura, parce qu'un jour ou l'autre, les publications de grand tirage vont en parler, lorsqu'un jour ou l'autre l'on saura que le mythe de Gorée n'est qu'une imposture, eh bien, les Européens vont dire, mais en fait, l'on nous a raconté des mensonges sur toute la traite. Alors, moi, je propose autre chose. Moi, je ne nie pas l'existence de la traite, mais je voudrais que la vérité soit dite sur la traite. Et je propose de faire rayer Gorée et la Maison des Esclaves des sites classés par l'UNESCO. Et puisque les Africains et les Négro-Américains veulent des vrais sites dans lesquels des esclaves africains ont souffert, je leur propose, moi, de créer comme site Zanzibar, qui est attesté, et également l'ancien établissement anglais de Cape Coast sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. Alors là, le fort de Cape Coast dans le Ghana actuel, lui, était un centre de traite. Oui, lui était un centre dans lequel on stockait les esclaves, dans lequel on les enfermait. Alors, si demain, les afrocentristes disaient « Nous allons faire un lieu de mémoire à Cape Coast », je dirais « Oui, car Cape Coast est un lieu de mémoire. Mais Gorée n'en est pas un, car il n'y a pas eu de traite à Gorée. Ou alors, quand le bâtiment qui nous est présenté comme la maison des esclaves a été construit, il n'y avait plus de traite depuis un siècle et demi. » Voilà. En d'autres termes, ce que je veux, c'est rétablir la vraie histoire africaine. Car si l'on rétablit la vraie histoire africaine, à ce moment-là, nos rapports ne seront plus freudiens avec l'Afrique, nous aurons des rapports de clarté, et nous parlons de quoi ? Nous parlons de choses réelles, et non pas de fantasmes. Fantasme, le coût de la colonisation. Alors, même chose, deuxième acte d'accusation de la victimisation. Alors, premièrement, si l'Afrique est dans la situation qui est la sienne, c'est parce que sa substance humaine lui a été volée par les esclavagistes européens. Deuxièmement, parce que, en pillant l'Afrique, en la vidant de sa population, les Européens ont construit leur richesse et ont fait leur révolution industrielle. Donc, je démontre que cela est faux. Deuxième grand point d'accusation, la colonisation fut un pillage de l'Afrique. L'Europe s'est enrichie en Afrique et l'Europe a pillé le continent. Faux. Alors, nous savions très bien que cette idée était fausse depuis les travaux remarquables de mon collègue Jacques Marseille, qui est professeur à la Sorbonne et qui a publié dans les années 80 sa thèse dans laquelle il démontre que l'Empire français a coûté beaucoup plus cher à la France que ce qu'il lui a rapporté. Donc, j'ai suffisamment parlé de cela pour ne pas revenir là-dessus. Il nous manquait une grande étude pour le domaine britannique. Car les culpabilisateurs disaient « Oui, mais peut-être, certes, douane française, mais les Britanniques, qui étaient des marchands, eux, ont colonisé pour le profit. » Faux pour ce qui est de l'Afrique. Totalement faux pour ce qui est de l'Afrique. Là encore, nous disposons de travaux très récents qui, malheureusement, ne sont pas synthétisés. J'en ai fait la synthèse. Et ces travaux sont publiés dans cette monumentale histoire de l'Empire britannique d'Oxford. 70 ou 80 ou 85 collaborateurs, les meilleurs universitaires ont collaboré à cette vaste fresque historique. Et la synthèse de leurs travaux est tout à fait intéressante. Premièrement, ce n'est pas pour un souci commercial que les Britanniques ont colonisé l'Afrique. D'ailleurs, les Britanniques ont traîné les pieds et ont essayé de freiner le mouvement le plus longtemps possible. Les Britanniques voulaient des points de passage pour contrôler la route des Indes. Il suffit de voir comment les Britanniques ont cherché pendant presque un siècle à ne pas être entraînés trop loin dans les expéditions d'Afrique australe. En Afrique de l'Ouest, dans les années 1840-1850, il est question d'abandonner les derniers comptoirs britanniques. L'on en discute au Parlement. Donc les Britanniques veulent véritablement se retirer. Et puis brusquement a lieu le Scramble for Africa, la ruée vers l'Afrique, qui va aboutir au partage de l'Afrique. Quelle est la réalité économique de cette Afrique pour l'Empire britannique. Rien du tout. L'Afrique au sud du Sahara n'a représenté qu'une goutte d'eau dans les investissements britanniques. Et cette goutte d'eau était majoritairement représentée par l'Afrique du Sud. Je cite tous les chiffres dans mon livre. Et au summum de sa puissance impériale, l'Angleterre ne retirait d'Afrique que 2% de son commerce extérieur, Afrique du Sud comprise. C'est-à-dire exactement les mêmes proportions qu'aujourd'hui dans l'Afrique indépendante. Les Britanniques n'étaient pas en Afrique pour des soucis économiques, ils étaient en Afrique pour des soucis stratégiques. Certes, il y eut ici ou là des opérations rentables, comme les mines en Afrique australe, mais ce fut un cas tout à fait isolé. Et ce cas tout à fait isolé se comprend immédiatement lorsque vous étudiez les chiffres de la richesse britannique. Lorsque vous étudiez les chiffres de la richesse nationale britannique, les chiffres des investissements britanniques en métropole à l'étranger, dans le domaine impérial et où dans le domaine impérial. Et vous constatez que l'Afrique, dans sa globalité, pèse moins que la seule île de Ceylan. Ce qui fait que l'Afrique n'existait pas pour les Britanniques. Les Britanniques y étaient pour d'autres raisons. Alors, nous avions jusque-là la thèse de Marseille qui nous expliquait que la France, non seulement n'avait pas pillé l'Afrique, mais s'y était ruinée. Et donc, exit la vulgate marxisto-tiers-mondiste. Et nous avons maintenant les travaux britanniques qui démontrent exactement la même chose pour le domaine anglais. Exit une seconde fois la vulgate marxisto-tiers-mondiste.
On peut peut-être à l'inverse dire que le Congo belge, lui, a été une bonne affaire.
Oui, alors c'est un cas. Oui, justement, c'est ce que j'explique dans mon livre. Je parle du Congo belge. Colonie très paradoxale, le Congo belge. Pourquoi ? Parce que le Congo belge n'a rien coûté à la Belgique. Pour une raison très simple, c'est que le Congo belge était une propriété personnelle du roi Léopold. Et dans les premières années du régime léopoldien, il y eut véritablement des exactions qui se produisirent dans le système des plantations et des concessions.
Le caoutchouc sanglant.
Le caoutchouc sanglant, c'est tout à fait clair. Ça a duré 10 ans, dans une partie limitée du Congo, mais les adversaires du monde colonial en ont fait un système. Notamment ce que Kokrividrovitch a fait en élargissant des données qui étaient tout à fait localisées à une partie de l'Afrique et en postulant que cela s'était passé ailleurs. Le drame des africanistes français, c'est qu'ils ne connaissent que le petit bout de leur lorgnette. Il n'y a pas chez les africanistes historiens français ce que l'on trouve chez les anglo-saxons, c'est-à-dire des gens qui ont une vision générale de l'Afrique. Les Français vont travailler toute leur vie sur le même timbre-poste, sur le même confetti en Afrique. Ce qui fait que ce qu'ils pensent qu'ils ont découvert dans un petit village du Sénégal s'applique à Madagascar, à Djibouti ou à l'Algérie. C'est faux.
C'est le même scénario que l'extrapolation du chemin de fer Congo-Océan vu par Gide, retour du Congo, et on en a fait l'image de toute l'Afrique française.
Exactement. Ce qui est une malhonnêteté intellectuelle, parce que on extrapole une donnée réelle et scandaleuse à l'ensemble d'une opération coloniale qui fut largement philanthropique. Donc, l'idée qui est importante concernant la Belgique est que, au départ, le roi des Belges avait bien vu que l'opinion belge était tout à fait hostile à la colonisation. Et pour obtenir la possibilité, il avait dû s'engager devant le Parlement à ne pas solliciter d'aide financière de la Belgique, en disant que sa propre fortune personnelle allait suffire à mettre en valeur le Congo. Cela n'a pas marché. Et il a fallu que des emprunts d'État soient souscrits pour sauver le Congo. Mais l'on peut dire que dès les années 1895, le Congo devient rentable par le caoutchouc et par le commerce de l'ivoire. Et quand le caoutchouc et le commerce de l'ivoire cessent d'être importants, ce sont les mines du Kasaï et du Katanga qui prennent le relais. Ce qui fait que le Congo n'a rien représenté comme dépense pour la Belgique. Et quand l'on étudie, là aussi, les chiffres économiques de la Belgique, et je le montre bien dans mon livre, l'on voit bien que le budget du ministère des colonies, sur 60 ans d'existence, était l'équivalent du budget des pensions belges pendant une année d'existence. Donc, le budget, je répète, le budget des colonies sur 60 ans d'existence était moindre que le coût des pensions aux retraités belges pendant une année. Pourquoi ? Parce que le Congo était rentable, parce que le Congo réinvestissait
tout ce qui était gagné sur place. Et voilà pourquoi les Belges ont laissé au Congo un pays ultra moderne. Car le Congo, c'était l'Amérique de l'Afrique. Il y avait des bâtiments, il y avait des chemins de fer, il y avait une navigation fluviale. Le problème, c'est que les Belges n'avaient pas suivi avec une politique de formation qu'ils avaient sous-traité aux missionnaires. Et les missionnaires ont voulu prendre leur temps et ont considéré les Africains du Congo comme des enfants. Et considérant les Africains comme des enfants, ils ont voulu leur faire franchir les phases que franchissent tous les enfants, étape après étape. Ils les ont pris à la maternelle et ils comptaient les amener jusqu'aux classes préparatoires des grandes écoles. Mais quand l'indépendance est arrivée brusquée, ils en étaient encore au stade de la sixième. Ce qui fait qu'il n'y avait aucun cadre congolais. Mais l'État belge a fait une œuvre admirable au Congo. Car le Congo était un pays ultra moderne. Léopoldville était une capitale de type européen, de type sud-africain à l'époque. Et voilà donc la ruine totale.
Élisabethville.
Donc le cas du Congo est un cas à part. Alors voilà ce que l'on peut dire pour l'aspect de remise à l'endroit des réalités historiques. Alors, ceci étant, la thèse que je développe dans ce livre est la suivante. Si l'on veut avoir en Afrique une vision décomplexée pour aider l'Afrique, mon but c'est d'aider l'Afrique. Mon but n'est plus maintenant de dire quelle est la vérité historique. Je l'ai déjà dit dans bien des livres. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, mon but c'est comment utiliser ces connaissances pour aider l'Afrique. Pour que l'Afrique ne soit pas obligée de déverser le trop-plein de sa population ici. Souvent, certains m'écrivent en disant « Mais vous perdez votre temps avec l'Afrique, l'Afrique ne nous intéresse pas, etc. » Mais c'est une erreur. L'Afrique nous concerne au premier chef. Car si nous ne faisons rien, nous serons obligés de prendre des mesures qui seront des mesures très graves, car il y aura un moment où nous risquons d'être submergés. Donc il est certain qu'il faut trouver des solutions pour arrêter la crise africaine, pour arrêter le marasme africain. Et l'on ne peut pas arrêter le marasme africain en avançant sur des fausses définitions de l'Afrique. Donc il faut revenir au réel. D'abord au réel, afin de purger le passé de tout le non-dit qui empoisonne à la fois l'esprit européen et l'esprit africain, de façon à ce que les Africains cessent d'avoir une rente de situation et que les Européens cessent de se sentir coupables. Alors, je propose un certain nombre de solutions. Et ces solutions sont des solutions qui vont d'abord dans le sens de la redéfinition des vraies ruptures africaines. Pour moi, la traite des esclaves et la colonisation n'ont pas été les principales ruptures de l'histoire africaine. La colonisation, plus que la traite des esclaves, parce que de la colonisation ont résulté des frontières artificielles dont nous voyons les conséquences aujourd'hui. Mais dans tout cas, certainement pas l'esclavage. En revanche, il y a un élément qui est fondamental dans les ruptures africaines, c'est l'élément de la découverte portugaise, qui a fait que l'Afrique qui était dominante était l'Afrique du Sahel, car l'Afrique du Sahel contrôlait tous ces grands axes d'exportation des richesses de l'Afrique à travers le Sahara et vers l'Afrique du Nord, et se sont donc construits tous ces grands empires du Sahel, de part et d'autre du lac Tchad. Or, la découverte portugaise, à partir du XVe siècle, a fait que de nouveaux pôles se sont développés en Afrique, sur le littoral, là où il n'y avait rien eu auparavant, car les Africains tournaient le dos à la mer. Et l'on a vu un basculement de l'intérieur vers le littoral, ce qui fait que l'Afrique a mis 2 siècles pour se remettre de ce traumatisme. Appauvrissement des grandes zones culturelles et étatiques et naissance d'États dans des zones qui n'avaient jamais connu autre chose que l'émiettement. Premier élément fondamental. Première rupture. Autrement plus grave que la traite des esclaves.
Ce qu'on a pu résumer par la formule des caravelles qui l'ont emporté sur les caravanes.
Voilà, la formule de Magalhães Godinho, l'historien portugais, la victoire des caravelles sur les caravanes, le titre de sa thèse et de son livre magnifique publié dans les années 1944-45. Mais on en est revenu maintenant parce qu'ensuite la caravane a repris sur la caravelle. Deuxième élément de rupture, qui est un autre élément de rupture fondamental, qui est toujours cette grande durée et qui touche toujours le littoral par rapport à l'intérieur. La colonisation s'est faite à partir du littoral, donc 3 siècles plus tard. Et elle s'est faite à partir du littoral avec l'aide des populations littorales qui étaient victimes à ce moment-là de la renaissance des populations sahéliennes. Parce que, après avoir été détruits par l'inversion des circuits économiques et des circuits politiques à la suite de la découverte portugaise, le Sahel renaît. Il renaît à partir des années 1800 et ont lieu ces grands djihads qui vont couvrir en fait des volontés expansionnistes des ethniques. Et ces grands djihads vont faire que le monde sahélien reprend force et redevient l'élément dominant en Afrique de l'Ouest. Au moment où les Européens se sont retirés du littoral, puisqu'il n'y a plus d'intérêt pour les Européens, puisqu'il n'y a plus de traite des esclaves. Donc, il n'y a plus d'Européens sur le littoral, ce qui fait que les peuples du Sud sont la proie rêvée des peuples du Nord, qui vont descendre ces peuples guerriers. Or, le phénomène va être interrompu à partir de 1885-1890, quand les Européens vont revenir sur le littoral et vont entamer la conquête de l'Afrique à partir de l'Atlantique, à partir des rivages atlantiques. Et les Européens vont une deuxième fois casser l'expansion sahélienne. Alors, une première fois involontairement, en s'installant sur le littoral à la suite de la découverte portugaise, et une seconde fois d'une manière conflictuelle, en s'opposant à ceux qui leur résistaient, c'est-à-dire au plus grand profit des sudistes, vaincus de l'histoire africaine, et au profit des nordistes, qui étaient les vainqueurs de l'histoire africaine. Donc, nous avons gelé des situations ou inversé des situations. Là est une grande rupture. Et aujourd'hui, que voyons-nous ? Du Nigeria à la Côte d'Ivoire, du Togo jusqu'à d'autres pays du monde ouest-africain, eh bien nous voyons la reprise de cette expansion des peuples du Nord, du Sahel, vers le Sud. Pour des raisons géographiques évidentes, ces gens vivent dans des espaces brûlés, ils sont attirés vers ce Sud qui est verdoyant, dans lequel tout pousse, qui est tourné vers le littoral, etc., vers l'océan des relations. Voilà cette réalité. Troisième grande rupture qui est fondamentale, c'est la rupture de la période post-coloniale. La période post-coloniale qui a été un traumatisme, la décolonisation a été un traumatisme pour l'Afrique. Un traumatisme pourquoi ? Parce que les Européens avaient pris l'Afrique en charge depuis 70 ans, et du jour au lendemain, les Européens étant partis, ils vont partir plus lentement avec la guerre froide, mais ils finissent par partir, ils laissent l'indépendance à des façons d'État, à des pseudo-États, dans lesquels la démocratie va perturber toutes les mentalités africaines. Nous sommes en Afrique, dans des mondes qui ignorent la notion d'individu. L'individu n'existe que dans le groupe. Les cultures africaines sont des cultures de groupe. L'on ne s'extrait pas du groupe. Les solidarités linéagères sont une protection, mais un carcan en même temps. Parce que quand ça va mal, il y aura toujours un oncle qui vous donnera un bout de paillasse pour dormir et qui donnera un bol de riz ou un bol de millet pour se nourrir. Mais quand ça va bien et que vous avez un poste en ville, eh bien c'est toute la famille qui débarque et vous devez nourrir la parentèle. Ce qui fait qu'on ne peut pas s'enrichir en Afrique. On ne peut pas s'enrichir car celui qui sort du village et qui trouve un petit métier en ville va voir tous ses revenus non capitalisables. Puis il va devoir entretenir sa parentèle. Donc tout tourne autour de cela. Solidarité, protection, mais interdiction de développement par cette notion qui est oppressante de parentèle et par le poids de la tradition, par le refus de l'innovation qui est conditionné par ce poids de la tradition. Ce qui fait donc que nous allons, dans cette Afrique qui ne connaît pas la notion d'individu, imposer la notion de démocratie. Je ne dis pas que la démocratie soit, par essence même, quelque chose de néfaste. Non. Ce qui est néfaste en Afrique, c'est la démocratie basée sur le one man, one vote. Car si le vote est individuel, il va résulter de l'addition des plus nombreux. Il va résulter de la victoire, il va en résulter la victoire des ethnies les plus nombreuses. En d'autres termes, les ethnies dont la seule vertu est d'avoir eu des femmes plus fécondes que celles de l'ethnie voisine sont assurées pour l'éternité d'avoir le pouvoir. Et nous nous trouvons dans un système de blocage tout à fait considérable parce que les ethnies qui, elles, sont moins nombreuses sont forcément écartées du pouvoir par la démocratie. Et si elles se soulèvent, on va leur dire « Vous êtes des putschistes, vous ne respectez pas la loi de la démocratie ». Mais quelle démocratie ? Ce n'est pas une démocratie, puisqu'automatiquement, les 80% sont toujours plus nombreux que les 20%. Oui, mais c'est la démocratie. Alors, soit vous l'acceptez et vous êtes des esclaves avec le label démocratique, vous êtes écartés des richesses de l'État, vous êtes des sous-citoyens. Alors, comment demander à ces populations de participer à une notion commune ? Ils ne peuvent pas, ils ne s'identifient pas à l'État ni à la nation. Ou bien ils se soulèvent, ils prennent le pouvoir
et on les condamne tout simplement parce qu'ils ont renversé l'ordre moral démocratique. Donc nous sommes dans une contradiction absolue et voilà un traumatisme pour l'Afrique.
Alors on les condamne, ça dépend lesquels, parce que le scénario s'est produit au Tchad par exemple finalement. Les Toubous ont fini, la minorité, par prendre le pouvoir à N'Djamena, et puis le scénario auquel vous pensez, là, il s'est réalisé, puis on a fini par l'accepter, parce que pendant près de 20 ans, on a essayé de d'écarter cette solution-là, et puis finalement, bon, bah, effectivement,
l'exemple du Tchad
le rapport des forces a fini par s'imposer.
L'exemple du Tchad est excellent, comme l'exemple du Rwanda est excellent. Que s'est-il passé au Tchad? Au moment de l'indépendance, la France a remis le pouvoir aux sudistes, au Sahara. Il était bien évident que les nordistes, ceux qu'on appelle les Toubous, enfin appelons-les les hommes du Nord, n'allaient pas accepter d'être dominés par ceux qui étaient leurs anciens esclaves. Et la France s'est obstinée pendant 20 ans à aider les sudistes pour finalement, un beau jour, dire écoutez, laissons faire la nature. Et il n'y a plus de problème au Tchad. Alors, les nordistes se battent entre eux, parce que ce sont des clans excessivement divisés. Mais la suprématie nordiste n'est plus remise en cause. Évidemment, la situation des sudistes n'est pas une situation très enviable. Mais il n'y a plus de problème au Tchad. Au Rwanda.
Ça, c'est parce qu'on a fait le Tchad. C'est le découpage des frontières
du Tchad. Tout à fait.
Cette situation.
Tout à fait. Au Rwanda, que s'est-il passé? Au Congo-Brazzaville, que s'est-il passé? L'Imbochi, 12% de la population. Était sûr d'être battu aux élections par les Congos. Les Congos sont divisés. Ils représentent 45% à peu près, mais ils sont divisés en plusieurs tribus. Bien, même divisés, les Congos étaient plus importants que les Mboshi. D'autant plus que les Congos ont fini par se réunir contre les Mboshi. Bien, qu'ont fait les Mboshi? Ils ont fait la guerre. Ils sont 12%, mais ils ont pris le pouvoir. Et ils tiennent le pays. Alors, il y a toujours ce problème. La démocratie donne le pouvoir aux plus nombreux. Au Rwanda, même chose. Si l'on applique la démocratie au Rwanda, bien, on légitime le génocide des Tutsis. Car la démocratie va donner le pouvoir aux 80% des Hutus qui vont immédiatement massacrer les 20% de Tutsis. Donc on est toujours dans le même problème. Alors la solution que je propose une solution. En fait, la solution qui serait l'idéal, mais qui n'est pas réaliste, disons bien qu'elle n'est pas réaliste dans le contexte actuel, elle le deviendra peut-être. La solution idéale serait la redéfinition des frontières africaines. Et l'organisation de l'unité africaine aurait là un chantier magnifique. C'est-à-dire, on met toutes les cartes sur table et on essaie de voir ce que l'on peut faire. Mais ce n'est pas réaliste, car cela est refusé par la plupart des chefs d'État, et cela est refusé par l'ONU et par les grandes instances internationales. Donc, puisque ce n'est pas réaliste, que pouvons-nous faire? Eh bien, faute de mieux, il faut essayer de résoudre le problème suivant. Comment faire cohabiter dans des états artificiels des populations qui ont souvent été coupées en deux par ces frontières, car ces frontières ont séparé des peuples frères, ou au contraire ont fait vivre dans des mêmes ensembles artificiels des populations différentes ou souvent antagonistes. Comment faire pour que, dans ces cadres politiques hérités de la colonisation et de la décolonisation, comment faire pour que le rapport politique ne soit pas mathématique? En d'autres termes, comment faire pour que les plus nombreux ne soient pas au pouvoir pour l'éternité et pour associer d'une manière ou d'une autre ceux qui sont minoritaires? Eh bien, il faut supprimer le one man, one vote et remplacer le one man, one vote par le vote de groupe. C'est-à-dire appliquer à l'Afrique un système politique démocratique qui repose sur les fondements philosophiques africains, qui sont les fondements de groupe. Et à partir de ce moment-là, l'on ne voterait plus en tant qu'individu, mais l'on voterait dans une chambre haute ou dans une sorte de Sénat qui aurait les pouvoirs, l'on voterait par groupe. Et à partir de ce moment-là, les groupes seraient représentés de la même manière. Ces groupes étant représentés de la même manière, le pouvoir ne serait plus mathématiquement attribué. Alors, vous allez me dire, c'est une solution totalement irréaliste. Bien sûr qu'elle est irréaliste. Elle est irréaliste pourquoi? Parce que, premièrement, les ethnies les plus nombreuses ne vont pas abandonner la rente de situation. Vous dites, mais pas du tout. Nous sommes pour la démocratie. Pourquoi? Le one man, one vote est appliqué dans le monde entier. Pourquoi pas en Afrique? Donc on nous considère comme des êtres inférieurs, puisqu'on ne veut pas nous appliquer le one man, one vote. Nous voulons le one man, one vote. Vous ne verrez jamais une ethnie minoritaire demander le one man, one vote. Ce sont toujours les ethnies majoritaires qui imposent le one man, one vote. Alors, les ethnies majoritaires ne vont jamais l'accepter. Alors, c'est pour cela que je dis que ça, ce que je propose, est un axe de direction et de réflexion qui est constitutionnel, qui est du domaine de la Constitution. Et si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à une définition constitutionnelle qui permette une circulation du pouvoir, car en Afrique, le pouvoir ne se partage pas. Le pouvoir est exercé dans la totalité par ceux qui détiennent le pouvoir. Si nous n'arrivons pas à cela, eh bien nous allons voir se multiplier les crises et les conflits en Afrique, et nous en arriverons un jour ou l'autre à la remise en question générale des frontières, dans l'anarchie la plus totale. Et à ce moment-là, les plus forts vont dévorer les plus faibles, et les ethnies dominantes vont reconstituer des pôles d'unité dans leur véritable zone. Parce que lorsque l'on plaque la carte politique de l'Afrique sur la carte des ensembles ethniques, des ensembles tribaux, et la carte des peuples, et des peuples qui ont eu une histoire, bien on constate l'aberration complète de cette question. Oui. Question d'auditeur,
Victoria. Il y a un certain nombre de commentaires.
Oui, allez-y.
Que sont devenus les descendants d'esclaves issus de la traite à destination des pays musulmans ? Il ne semble pas qu'il y ait en pays musulmans des minorités comparables à la minorité noire des États-Unis.
Eh bien, au Maroc, vous avez les Abides, vous avez sous ce fond de population... En Algérie, vous avez relativement peu de Noirs. Pourquoi ? Parce que l'Algérie n'a jamais constitué un État, et l'Algérie n'a jamais contrôlé le commerce transsaharien, et vous avez en revanche énormément de Noirs au Maroc, et même les populations berbères du Sud sont profondément métissées de Noirs, parce que le Maroc contrôlait le grand commerce transsaharien. D'autre part, une grande partie de la garde du sultan du Maroc était la garde noire. Aujourd'hui, la garde rapprochée est toujours la garde noire, ce que l'on appelait les Abides, et il y avait plusieurs dizaines de milliers d'esclaves qui, tous les ans, étaient importés depuis le Maroc, depuis les rivages au sud du Sahara.
On pourrait rétorquer que la politique d'immigration vers l'Europe contribue à la vider plus que ne l'a fait l'esclavage.
Oui, surtout pour les élites. Alors là, c'est un problème que j'aborde longuement dans mon livre. Je montre comment l'émigration des diplômés est en train d'achever de tuer l'Afrique. Parce que ce qui se passe, c'est que l'Afrique entre dans le troisième millénaire avec la plus grande masse de population non éduquée au sens moderne du terme. Or, nous savons très bien que les masses non éduquées sont des masses qui ne pourront pas résister aux enjeux et aux pressions et aux problèmes qui vont se dérouler dans les siècles qui vont venir. Et le drame est que, en Afrique, nous constatons que ceux qui sont formés s'en vont. Monsieur Sarkozy, l'autre jour, a cité un chiffre que nous connaissions, mais comme Monsieur Sarkozy l'a cité, on peut le reprendre officiellement sans être taxé de pensée, d'arrière-pensée. Monsieur Sarkozy, dans sa conférence de presse, dans son émission de télévision il y a quelques mois, a cité le chiffre suivant. Il y a plus, d'après Monsieur Sarkozy, et M. Sarkozy étant ministre de l'Intérieur, il a les vrais chiffres. Il y a plus de médecins béninois dans la région parisienne qu'il n'y a de médecins béninois au Bénin. Voilà le problème. Ce qui fait que les nomenclaturas africaines, et c'est là que je voudrais faire une parenthèse sur la francophonie, et je vais, alors là, les bombes atomiques vont me tomber sur la tête, je vais me faire insulter par nombre d'amis. Une certaine forme de francophonie favorise l'immigration. Il ne faut pas craindre de le dire, tant pis si ça déplaît, nous ne sommes pas là pour plaire, mais nous sommes là pour dire ce qui est. Que se passe-t-il ? Avec l'effondrement, suivez bien mon raisonnement, avec l'effondrement du système scolaire en Afrique, il n'y a plus, comme à l'époque des missionnaires, des écoles qui fonctionnaient partout en Afrique. Tout le maillage missionnaire a disparu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants africains qui vont à l'école sont perdus. Ils ne sortiront jamais du néant. Le seul moyen pour eux de sortir du néant, c'est d'avoir accès aux quelques centres qui sont encore des centres de prestige et de formation, qui sont notamment les lycées français et les diverses écoles que nous entretenons. Ce qui fait que qui a accès à ces écoles ? La nomenclatura francophone. Et nous voyons dans ces pays de plus en plus une coupure entre les populations qui sont de moins en moins francophones, même au Sénégal. Elles sont francophones dans les villes, mais allez au fin fond de la brousse et elles sont de moins en moins francophones. une coupure entre les populations de la brousse qui sont de moins en moins francophones et une petite nomenclatura qui, elle, est parfaitement francophone et qui, à partir de l'âge de 14, 15 ou 16 ans, envoie ses enfants en France pour achever leur formation ou ensuite pour leur formation universitaire. Et lorsqu'ils sont formés, eh bien, ces cadres sont inadaptables à l'Afrique. Parce que ils sont doublement coupés de leur pays, ils sont coupés de la masse de la population, et ensuite ils ont pris des habitudes de fonctionnement intellectuel et de fonctionnement tout court qui leur interdisent ces habitudes de se réinstaller en Afrique. Voilà pourquoi nous avons plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin. Et les institutions de la francophonie, certaines institutions de la francophonie, encouragent ce phénomène. Le Québec, par exemple. Le Québec procède à une traite des Noirs. Lisez les journaux africains, moi je les lis tous les jours, dans la presse africaine francophone. Vous avez tous les jours des publicités pour l'immigration au Québec. Francophones, diplômés, ingénieurs, venez au Québec. L'obsession anti-anglaise est telle au Québec que les Québécois sont en train de recruter une armée noire qui va permettre de pousser un cocorico francophone dans les arpents de neige face à la menace réelle du monde anglo-saxon. Mais ce faisant, si les Québécois veulent changer leur fonds de population, c'est leur problème, ça ne nous concerne pas. Mais moi je pense à la malheureuse Afrique. Chaque fois qu'un diplômé africain est acheté par le Québec pour aller s'installer en Afrique, c'est un crime qui est commis contre l'Afrique. Car l'Afrique perd sa sève la plus chère, perd sa moelle la plus importante, l'Afrique perd ses enfants diplômés. Alors voilà que, d'un côté, l'Afrique meurt par le bas, par tous ces drames sociaux, ces famines, etc. Et l'Afrique se vide donc par le bas et elle se vide par le haut. C'est pour ça que je dis que la mort programmée du continent noir est là. Et cette mort programmée, nous ne pouvons l'éviter que si nous remettons complètement à plat notre fonctionnement de raisonnement. C'est pour cela que je disais que certaines formes d'institutions de la francophonie encouragent cette immigration et ce pillage de l'Afrique. Ah, voilà le pillage de l'Afrique. Il ne s'est pas produit à l'époque de l'esclavage, il ne s'est pas produit à l'époque coloniale, il se produit maintenant. Quand le Québec importe des populations des diplômés de haut niveau, écrème les diplômés de haut niveau d'Afrique du Nord et d'Afrique noire, parce qu'ils sont francophones. Francophones d'Afrique, diplômés, venez vous installer au Québec. Ils ont des facilités, des bureaux spéciaux. Quand vous arrivez à l'aéroport de Mirabel, j'ai donné suffisamment de cours à l'université, aux universités québécoises pour le savoir, quand vous arrivez à l'aéroport de Mirabel, vous faites la queue pour votre visa, et vous avez un bureau spécial pour les immigrants qui viennent d'Afrique, où ils sont immédiatement accueillis, on leur donne des bons d'hôtel, on leur donne tous les avantages, ils ont de quoi pendant 3 mois vivre complètement au crochet de la communauté pour encourager cette installation de francophones. Voilà le crime qui est commis contre l'Afrique au nom de la francophonie. Alors, je sais que là, les lettres d'insultes vont commencer à arriver, mais tant pis, je l'ai dit, il fallait le dire.
J'ai un autre message. Y a-t-il une prise de conscience des élites européennes sur le problème africain ? Si on les laisse végéter, nous allons être submergés et l'Europe risque de retourner à l'âge de pierre. Il suffit de voir les quartiers colonisés par eux. Rappelez-vous qu'il y a un milliard d'Africains et qu'à raison de 10 enfants par famille, la génération prochaine risque d'avoir très peu de place, y compris chez nous.
Non, il n'y a pas un milliard d'Africains. Il y a un milliard d'Africains sur le continent africain, mais il n'y a pas un milliard d'habitants d'Afrique au sud du Sahara. Allez-y, Victoria, oui.
Pouvez-vous nous indiquer s'il est vrai que les esclaves affranchis prenaient le nom de leur ancien maître ?
Très régulièrement, aux États-Unis notamment.
Et à la
Je pense qu'il y a, des bouches noires.
Et à la paix.
Comme il y a des bushmen. D'ailleurs, les dieux lui sont tombés sur la tête.
Et à la paix d'Utrecht, les Anglais, comme paiement, ont reçu le monopole de l'esclavage sur tout l'Atlantique.
Non.
C'est pas vrai. Pas vrai. Mais j'avais
non.
quelques petites.
Mais non. Bon.
Non, c'est pas ça l'histoire de la paix.
Non, y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions ?
Il y avait d'autres questions, d'autres remarques sur la première partie, mais oui, je pense que c'est trop tard.
Philippe Conrad, aviez-vous d'autres questions ? Denis Vénère, remarques à faire sur ce qu'on vient de dire sur l'Afrique ?
Non, je crois que vous avez.
Non, moi j'avais une remarque à faire sur le livre, parce que je l'ai lu sans être nullement spécialiste de l'Afrique, et je l'ai lu avec énormément de plaisir, pour plusieurs raisons. Pour celles que tous les éditeurs ont compris, c'est-à-dire la clarté avec laquelle tous ces problèmes africains sont évoqués, tout ce qui est dit sur l'histoire véritable de l'Afrique, c'est une lecture qui est jubilatoire. Et puis, au-delà, se dégage, comme dans toutes vos interventions, Bernard, concernant l'Afrique, une certaine philosophie de l'histoire qui est d'une grande logique, une grande rigueur, grande séduction et, à mon sens, grande utilité. Voilà quelles étaient mes remarques à la lecture de ce livre.
Merci Dominique. Et quelques remarques d'auditeurs ?
Un auditeur vous dit que dans le Val d'Oise, on trouve votre livre à la FNAC de Cergy.
On le trouve partout, mon livre. Il était censuré dans 15 ou 20 librairies, mais il est partout.
Et une auditrice vous demande, est-ce que God Bless Africa sortira en allemand ? Et si oui, où pourra-t-on se le procurer ?
Oui, il est prévu, mais l'année prochaine, simplement. Il va sortir en bulgare avant de sortir en allemand. C'est paradoxal, mais il va sortir l'année prochaine en allemand, oui, tout à fait.
Je voudrais vous rappeler les titres. Alors, votre livre, on peut donner tous les renseignements sur ce livre ?
Oui, mais nous avons encore quelques minutes là. Vous donnez les renseignements maintenant, nous finirons la question ensuite. Oui, d'accord, oui, tout à fait.
Alors, donc, God Bless Africa, contre la mort programmée du continent noir, se trouve aux éditions Carnot. Il a 332 pages, 29 cartes, et il vaut 20 euros. Il est en vente dans toutes les librairies. Pour l'auditeur qui souhaitait connaître...
Et surtout les librairies amies.
Oui, bien sûr. L'adresse des éditions Carnot, c'est 10 quai Jean Mermoz, 78 400 Chatou. Le téléphone 01 30 53 75 05 et internet www.carnot.fr. Pour recevoir le livre dédicacé, vous pouvez adresser vos commandes à... L'Afrique réelle, boîte postale 6, 0340, Charroux, 25 euros, franco de port.
Tout à fait.
Et on peut éventuellement rappeler le prix de l'abonnement à l'Afrique réelle.
À la revue, oui, 58 euros pour les 4 numéros. Le prochain numéro est en cours de fabrication. Les abonnés le recevront d'ici un mois environ. Un numéro qui va être consacré essentiellement au pétrole. La géopolitique du pétrole en Afrique, avec un gros dossier réalisé par Aymeric Choprade, que nous avons entendu tout à l'heure, nous parlait de l'Asie centrale, et un très gros dossier qui va être consacré au Burundi, parce qu'il se passe des choses très graves au Burundi, on en parle peu, et un très gros dossier, plus divers thèmes d'actualité que nous traiterons dans ce prochain numéro, qui va être le numéro qui va précéder le numéro du 10e anniversaire de la revue.
Je rappelle aussi que la revue, nouvelle revue d'histoire de Dominique Vénère, se trouve bien sûr en kiosque, mais qu'il vaut mieux s'abonner et qu'on peut le faire au 88 avenue des Ternes, Paris 17e. L'abonnement annuel est de 32 euros et pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 01 40 54 01 70. Je rappelle le titre du livre d'Aymeric Choprade. Géopolitique constante dans l'histoire, ça se trouve aux éditions Ellipse.
Vous avez également, pourriez-vous rappeler les messages, les annonces tout à l'heure, non ?
Si vous voulez.
Toutes les annonces ont été données. Nous pourrions-nous, en revanche, annoncer...
Sauf une qui est arrivée en cours de, qui est arrivée en cours d'émission.
Oui, bah écoutez, annoncez.
Très vite.
Oui,
le jeudi 20 mars à 18h30, à l'invitation des catholiques pour les libertés économiques, Bruno Gollnisch fera une conférence sur le thème « Où va le Japon ?». Elle se tiendra au centre Chaillot-Galliera, 28 avenue Georges V, Paris 8e.
Où va le Japon, petit chien des Américains. Le Japon, à l'heure actuelle, est dans la situation de l'Angleterre vis-à-vis des États-Unis. Et les Japonais n'ont décidément pas de mémoire. Nous allons annoncer également notre prochaine émission, le prochain libre journal de Serge de Bekech, que j'aurai le plaisir de diriger en compagnie de Dominique Vénère et de Philippe Conrad, aura lieu le mercredi 9 avril de 18h à 21h. Oui, vous voulez dire cette...
Bah oui, alors.
Je veux bien vous faire la. Allez, vous avez toujours les petites critiques.
Oui, allez-y.
Qui ne sont pas méchantes. Émission très intéressante. Mais pourquoi ne pas dire un homme, un vote, et non one man, one vote? Merci de nous épargner ces anglicismes, s'il vous plaît. Voilà.
Mais tout simplement parce que le slogan One Man, One Vote est un slogan qui est né dans le sud des États-Unis, dans le Deep South. Pardon, dans le sud profond, cher auditeur, je suis désolé. Et tout simplement parce qu'il a été popularisé ces dernières années avec le système sud-africain, toute la révolte de la conscience noire qui s'est basée sur ce principe. Alors, quand on parle de One Man, One Vote, on sait ce que l'on veut dire. Un homme, une voix, c'est un peu différent. Non, je n'ai pas je ne suis pas bloqué sur la francophonie comme un coquillage sur un rocher.
Vous saluez les populations maintenant.
Voilà. Chers auditeurs, à la prochaine émission, le 9 avril. Merci de votre attention. Bonsoir Victoria, bonsoir Dominique, bonsoir Philippe.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir, ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi, je ne sais encore pas quel jour, 19, voilà, diffusé en direct.
C'est une triste date et que nous pourrions ne pas oublier, car nous ne l'avons pas oublié. Nous.
Donc diffusé en direct. Mercredi 19 mars de 18 à 21h, en différé jeudi 20 mars, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros, où elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix global franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.